Bonjour à tous. Merci d'être venus pour écouter ce dialogue avec Daniel Mesguich. Nous avons aujourd'hui, pour ceux qui sont des habitués de l'Université populaire, nous avons aujourd'hui des pendrillons en plus. Je ne sais pas si vous voyez Daniel, là, juste à côté, il y a deux pendrillons qui ne sont pas là d'habitude, qui préparent un concert de Radio France demain. Pendant qu'on y est, c'est quoi un pendrillon ?
Un pendrillon, c'est un TAPS.
C'est un quoi ?
Un TAPS, ça peut se dire comme ça aussi. TAPS, T-A-P-S, d'où vient le mot tapisserie, c'est un grand lait de velours, en général noir, oui. qui pend, d'où son nom, et qui permet d'éviter les découvertes, c'est-à-dire qu'on découvre, qu'on voit, que les spectateurs voient ce qui se passe dans les coulisses.
Je rêve pas, vous aimez beaucoup les pendrillons, vous ?
J'aime beaucoup les pendrillons ? J'aime beaucoup la boîte noire, ce qu'on appelle la boîte noire.
Oui.
La boîte noire, c'est un théâtre qui est entièrement tapissé de pendrillons. Ça peut être ou à l'italienne, quand c'est en lait comme ça, ou à l'allemande, quand c'est en long, et on ne peut plus accéder à la coulisse. J'aime beaucoup la boîte noire. La boîte noire, c'est-à-dire la boîte neutre dans laquelle tout est possible.
Alors là, les pendrillons n'étaient pas prévus. Alors, nous allons commencer par désamorcer deux canulars que nous avons faits ensemble de façon... Il n'y a aucun malentendu, parce que quand même, l'âge venant, il faut quand même qu'on fasse attention à
oui,
ça.
Oui, soyons sérieux.
C'est la seule personne qui ait jamais réussi à me faire marcher dans à me faire entreprendre un canular avec lui. J'ai marché dans d'innombrables canulars, je suis la bonne poire à canulars, mais en montée, j'ai jamais réussi en mon côté que deux avec Daniel. Le premier, nous ne sommes pas cousins. Nous avons fait croire à tout le monde que nous étions cousins, il y a peut-être des gens qui le croient encore, et nous ne sommes pas cousins. Et le deuxième est plus culotté quand même. Shakespeare n'est pas juif. Tu veux bien expliquer cette histoire ? Si ça vous ennuie pas, qu'on se tutoie, parce que quand même, ça sera plus naturel.
Oui. Catherine m'avait interrogé un jour quand elle travaillait au Matin de Paris, au Matin, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce journal, et elle m'avait interrogé à propos de Shakespeare. Je montais Le Roi Lear, je crois.
Le Roi Lear, oui, c'était l'année de la Cour d'honneur.
Voilà, la Cour d'honneur en 1981. Et j'avais expliqué que Shakespeare était le plus grand écrivain juif de l'histoire, parce que il me semble toujours d'ailleurs que Shakespeare devait s'endormir comme les vieilles dames anglaises, vous savez, tous les soirs en lisant et relisant l'Ancien Testament, que son œuvre, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, que son œuvre était truffée de références à ce qu'on appelle donc l'Ancien Testament, et j'avais donc dit ça. J'avais dit ça évidemment comme une métaphore, comme une façon de dire, mais il était écrit malgré tout, noir sur blanc, Shakespeare est un grand écrivain juif. Et j'avais reçu des dizaines de lettres de protestation plus ou moins outrées, en disant « Monsieur, c'est un scandale, enfin Shakespeare n'est absolument pas juif, voilà ».
Voilà, oui, mais ça, comme vous le verrez chemin faisant, ça n'est pas un détail. Si vous consultez Wikipédia à la fiche Daniel Mesguich, vous trouverez une très étrange expression pour le définir, metteur en scène franco-algérien. Alors, c'est pas lui qui a rédigé sa fiche Wikipédia, on sait d'ailleurs, par définition, pas qui c'est. Et on va commencer par parler de l'Algérie, parce que c'est une de vos âmes, sinon l'essentiel. Alors, je voudrais que vous lisiez le texte de la page 48. Ceci est extrait de L'éternel éphémère, qui est l'essai majeur de Daniel Mesguich. Et je voudrais qu'il lise lui-même ce qui s'appelle Voix off, page 48.
À la télévision, à l'époque de mon enfance, la pression des événements faisait qu'à tout moment, un fragment de la réalité, une annonce politique ou bien une émission pirate de l'OAS, OAS, Organisation Armée Secrète, groupe terroriste fondé en février 1961 et luttant contre l'indépendance de l'Algérie, pouvait surgir au milieu d'un western ou d'un dessin animé. Ces émissions pirates n'interrompaient pas vraiment les programmes. Elles les parasitaient seulement. Elles s'y collaient, en quelque sorte. On regardait un film le soir en famille et puis, tout d'un coup, le son se brouillait. On entendait très loin une chansonnette yéyé chantée par Henri Salvador ou Franck Alamo, je ne me souviens plus. C'était « Tu parles trop du soir au matin, les mêmes mots, les mêmes refrains et du bla 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 bla, c'est ton défaut. » C'était la chanson. À quoi s'enchaînait, dans un mixage savamment calculé, plus fort, plus présent, impressionnant, le chant des partisans. Vous connaissez le chant des partisans.
Ils ont eu le culot de faire ça ?
Oui. C'était pour montrer sans doute que la vraie résistance à l'ennemi, maintenant, c'était plus De Gaulle qui l'incarnait, c'était eux. Pendant ce temps, le film continuait, les images seules se poursuivaient, tant bien que mal, l'intrigue policière ou celle du western du soir. Puis venait l'annonce. Allô, allô, ici Radio France, la voix de l'Algérie française. Notre émission OAS va commencer. Suivait un commentaire politique de l'OAS sur son action, les événements du moment, le nombre de morts dans les deux camps, etc. Je me souviens même des expressions, c'était hier, deux sbires de De Gaulle. Et le mot sbire, par exemple, je le découvrais à cet âge-là. J'avais 8 ans, 9 ans. Spectacle étrange et assez fascinant. Le télescopage de deux univers qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Les images d'une fiction, d'un jeu, d'un jadis, étaient soudainement trouées par un son qui, lui, ne jouait pas, ne renvoyait à rien d'autre qu'à une réalité brûlant au présent, l'actualité. Actualité que je ne comprenais d'ailleurs pas très bien. Ce qui me frappait, ce qui m'a marqué, c'était que le film, pendant l'interruption du son, continua de se dérouler en images, une continuité sur de la coupure. Et que l'on continua de le regarder en famille, de le suivre en silence. Et c'était aussi, non la discordance, mais l'étrange concordance, au contraire, de ces deux temps, celui de la fiction et celui vrai du dehors. On entendait parfois la voix grave impersonnelle annoncer à 7 heures du matin, Rudy Sly, un membre du FLN, a été abattu. Et sur l'écran, à cet instant, au moment où on entendait le mot abattu, on voyait un cow-boy tirer sur un Indien ou un gangster descendre un policier. La réalité présente était secouée, infiltrée, minée par ces fictions passées, bien sûr, mais aussi ces histoires en noir et blanc étaient comme un témoignage rendu à la vérité. Autrement dit, la réalité et la fiction, à l'âge que j'avais, en tout cas, c'était exactement la même chose. La réalité avait un goût de fiction, quoi.
Vous êtes né à Alger ?
Je suis né à Alger. À Alger, on ne disait pas Alger, on disait Alger même.
On disait ?
Je suis né à Alger même.
C'est-à-dire ?
On disait toujours Alger même. Si vous rencontrez un pied noir, comme on dit, quelqu'un qui était un Français d'Algérie, qu'il vous demande où vous êtes né, comme vous venez de le faire, je réponds à Alger et il me répondra immédiatement et obligatoirement, inéluctablement, Alger même. Par opposition au reste de l'Algérie, je pense. Enfin, on dit toujours Alger même, c'était comme ça.
Oui. Avenue Claude Debussy, c'est ça ?
Oui, 13 avenue Claude Debussy. Oui. L'avenue Claude Debussy, maintenant elle s'appelle rue Claude Debussy, ce qui est normal parce que c'est une petite rue charmante qui n'a rien à voir avec une avenue, mais ça s'appelait avenue à l'époque. Et Claude Debussy, elle s'appelle toujours Claude Debussy, alors que tous les noms de rue ont été changés, mais pas les noms d'artistes. Donc ça s'appelle toujours Claude Debussy.
Est-ce que vous y êtes retourné ?
Ah oui, plusieurs fois. La dernière fois, c'était avec ma compagne, Fatia, et c'était la première fois, parce que j'y étais allé au moins 7 ou 8 fois, mais c'était la première fois que je rentrais dans ma maison, enfin de ce que j'appelle ma maison, l'appartement dans lequel nous vivions. Fatia avait parlé en arabe avec les gens qui y travaillent, car c'est devenu des bureaux, cet immeuble, et je n'avais pas le droit de rentrer, c'était des bureaux nationaux, enfin je ne sais pas, quelque chose comme une entreprise nationale, donc je n'avais pas le droit en tant que touriste étranger de rentrer. Et puis donc là, grâce à elle, on a pu rentrer. Et j'ai vu donc le couloir, la salle à manger, la chambre de mes parents, etc. Mais pas ma chambre, parce qu'elle était fermée et que la personne qui travaillait dans cette chambre à ce moment-là n'était pas là ce jour-là. Elle ne travaillait pas ce jour-là.
Qui était devenu un bureau aussi ?
C'était aussi un bureau. Tout ça, c'était des bureaux. Et donc j'étais un peu triste. Et ils ont téléphoné, les gens qui travaillaient dans les bureaux, dans les autres pièces, donc, ont téléphoné à cette dame qui ne devait pas travailler ce jour-là, qui a traversé tout Alger pour venir m'ouvrir la porte de ma chambre pour que je puisse la voir. Voilà. Donc maintenant, j'ai vu tout l'appartement.
Mais les premiers souvenirs, les souvenirs de ça, l'OAS, c'est quand vous aviez 8 ans. Vous avez des souvenirs
8, 9
qui
ans, oui.
Bien avant ça, j'imagine.
Ah oui, bien sûr.
J'aimerais savoir pourquoi vous aimez tant le noir, d'une part, donc je cherche des souvenirs qui soient exactement le contraire, et j'aimerais savoir quel rapport ça a au théâtre.
Très franchement, je ne sais pas répondre à la question, mais j'en parlerai à mon psychanalyste préféré, parce que le noir, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que peut-être ça a un rapport avec la façon dont mon père s'habillait. Peut-être, mais je ne veux pas faire de la psychanalyse sauvage et hasardeuse. Mon père était très souvent habillé de manière très sombre, voire noir, enfin costume noir. Je raconte ça parfois, mon père était, paraît-il, un très bon nageur, parce qu'Alger, c'était quand même la mer, avant tout. C'était un très bon nageur, mais je ne l'ai jamais vu se baigner. C'est-à-dire que quand nous sommes nés, on ne le voyait jamais en maillot de bain. Je l'ai vu en maillot de bain en photo. En revanche, il nous accompagnait à la plage et il venait nous chercher, ma mère, ma sœur et moi, à la plage de la Madrague, le soir, quand la tombée du jour. Et il était toujours, mon père, extrêmement bien habillé. C'était un dandy extrême. C'est-à-dire chaussures anglaises, montre gousset avec le boîtier en cuir qui tenait par une chaîne au gilet. Toujours le gilet, même l'été. Enfin, être en bras de chemise, ça aurait été être en sous-vêtement pour lui. Enfin, on ne se mettait pas en chemise. Voilà, il avait l'air... Et donc, au milieu des jeunes filles à moitié nues, au milieu des enfants qui piaillaient, qui couraient en jetant du sable partout, donc tout le monde était comme ça, libre, au soleil, il faisait chaud, etc. On voyait, à la tombée du jour, enfin, à la fin de l'après-midi, mon père nous faire un signe de loin sur la plage. Et moi, j'avais l'impression, je ne connaissais pas Proust à l'époque. Et je n'avais pas vu de film de Visconti, mais c'était exactement comme s'il sortait d'un roman de Proust ou d'un film de Visconti. Il y avait un homme qui n'avait rien à voir avec le reste de la plage, qui nous faisait un signe pour dire « c'est l'heure, il faut rentrer ». Voilà. Donc c'est, le noir, je ne sais pas si c'est un rapport, mais...
C'est une ville très éclatante, Alger.
Mais oui, ça n'avait rien à voir avec la façon dont mon père
était. Je me suis demandé si ce n'était pas le blanc de la ville perdue.
Le noir ?
Oui.
C'est possible aussi, oui. Le deuil, alors. Un deuil de ce blanc.
Parce que vous avez quand même passé le chemin qui va... Enfin, vous avez connu l'époque de la valise ou le cercueil, comme on disait.
Ah oui, bien sûr. J'ai des souvenirs très très précis du départ, par exemple. Du départ avec un D majuscule.
Je ne sais pas si les jeunes générations peuvent s'imaginer la violence de cette époque-là qui était extraordinaire. Il y a des textes dans l'Éternel éphémère qui sont pleins de sang, le sang de Mohamed justement qui gicle parce qu'il est écrasé par une voiture de l'Ouest.
Il est pas écrasé, il est canardé avec une mitraillette.
Pardon ?
Canardé avec une mitraillette,
oui.
Devant moi. Oui, devant moi. J'allais à l'école et puis Mohamed, c'était un gars qui descendait les poubelles de l'immeuble. Et je le connaissais, donc j'ai failli courir. Heureusement, je ne l'ai pas fait parce que je serais mort. J'ai failli courir vers lui pour lui dire Mohamed, on faisait le même chemin, donc j'aurais marché à côté de lui. Et puis une Peugeot noire de l'OAS, c'était toujours en Peugeot noire. Remonter sans doute et remonter très lentement la rue Michelet, puisque je prenais la rue Michelet, celle qui s'appelle maintenant Didouche Mourad, pour aller à mon école. Et la vitre se baisse, exactement comme dans les films de parrain, enfin de mafia. La vitre se baisse, la mitraillette sort. Je voyais tout ça, mais vraiment comme dans un film, comme au ralenti, quoi. C'était une réalité, mais c'était comme un film. Et la mitraillette tire. Mohamed tombe. Et il avait une petite ceinture de trous, si j'ose dire. D'où le sang giclait par vraiment chaque trou, comme ça, lançait son jet de sang. Et il disait « Aïm, Aïm », ce qui veut dire, je ne parle pas arabe malheureusement, mais ça je le sais, ce qui veut dire « Aïm maman, Aïm maman ». Et moi je ne savais pas quoi faire, j'avais 8 ans, et j'avais mon petit cartable, et je l'ai enjambé, je l'ai contourné, mais je veux dire, j'ai dépassé le corps, et je suis allé à l'école en tremblant, en le laissant, parce qu'il n'y avait rien à faire, il n'y avait personne dans les rues, l'OAS régnait en maître. Hein, et voilà.
Il a été puni pourquoi ? Simplement parce qu'il était arabe.
Parce qu'il était arabe, c'était le dernier temps. Il y avait un endroit, le centre d'Alger, qui était vraiment tenu par l'OAS. Enfin, la terreur OAS régnait partout. Et quand un arabe était là, alors que c'était l'endroit blanc, l'endroit français, il n'avait pas à être là, donc on le tuait. Oui, je me souviens de ça.
Et à quel moment votre famille a décidé de partir ?
C'est compliqué, parce que moi, j'assistais à des apéritifs. Mon père allait systématiquement avec moi chez sa mère, où il y avait les frères, pour l'apéritif, avant qu'on aille ensuite dîner avec ma mère et au cinéma, etc. Parce que c'était un rituel, on allait au cinéma tous les soirs.
Donc c'est une famille élargie.
Une famille ?
Ce qu'on appelle en anthropologie une famille élargie. Une joint family,
oui,
en anglais.
Doute, sans doute, mais enfin oui et non, parce que ma mère ne venait pas à ces apéritifs. c'était chacun dans sa famille quand même. Et donc à ces apéritifs, où on buvait évidemment de la nisette, hein, on ne buvait pas du whisky, et les enfants du jus d'orange, ils se demandaient s'il fallait partir ou pas, les frères de mon père, qui étaient quatre, la sœur de mon père et mon père, et puis ma grand-mère qui trônait, reine-mère, au milieu de tout ça. Et ils se demandaient s'il fallait partir, mais ils ne se disaient pas simplement « est-ce qu'il faut partir ?» C'était des juifs d'Algérie. Les juifs d'Algérie, c'est un truc un peu compliqué, si je peux expliquer très vite. Les juifs d'Algérie, il y en a de trois sortes. Il y avait ceux qui étaient arrivés avec des Français, assez peu nombreux, à partir de la colonisation, donc à partir de 1830. Il y a ceux qui étaient arrivés bien avant, mettons au temps de Isabelle et Ferdinand, les rois très catholiques, qui ont chassé
autour de 1500,
qui ont chassé les juifs d'Espagne et du Portugal. Et puis certains, une grande partie, hein, 25 000, 30 000, je ne sais pas, étaient là depuis l'Antiquité, c'est-à-dire depuis 700 ans avant Jésus-Christ, depuis la destruction du deuxième temple de Jérusalem. Et donc ils étaient là, c'était leur pays. Quand je dis 700 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire bien avant les Arabes en Algérie. C'était donc les Algériens. Avec les Berbères, c'était les premiers Algériens.
Après les Carthaginois quand même.
Oui, mais il n'y avait plus de Carthaginois en Algérie. Enfin, il y en avait peut-être en Tunisie, mais il y en avait plus en Algérie. Et si tant est qu'il y en a eu encore, parce que c'est tout ça a changé. Hein. C'est jamais les mêmes. Quand on dit les Carthaginois sont les Tunisiens, quand on dit je ne sais pas quoi, même les Juifs. Les Juifs sont-ils les Hébreux dont on parle dans la Bible? Moyennement. Est-ce que les Égyptiens d'aujourd'hui ont quelque chose à voir avec les pharaons? Presque pas, enfin, voire pas du tout, etc. Mais donc, ces gens étaient des Juifs. Et puis en 1870.
Le décret Crémieux,
qui est un décret donc, d'un député français juif, qui avait réussi à arracher à la Chambre l'idée que les Juifs d'Algérie devaient être français, comme leurs frères, si j'ose dire, de métropole. On disait métropole, on ne disait pas la France. Et donc.
Y compris ceux qui étaient là depuis l'Antiquité.
Bien sûr. Et donc tous les Juifs d'Algérie, pas du Maroc ni de Tunisie, hein, tous les Juifs d'Algérie sont devenus Français en 1870. En deux générations, ils ont entièrement changé leur manière de vivre. Ils n'ont plus eu de djellaba ou de turban, mais des complets vestons et des tailleurs. Ils n'ont plus parlé arabe, enfin de moins en moins, mais parlé français. Et au bout d'un moment donc, au bout de deux générations et demie, c'était des Français, exactement comme les autres. Ça a été à toute vitesse. On les a accusés d'avoir trahi les autres indigènes, on disait indigènes pour les Arabes et les Juifs, les non-Français. On les a accusés d'avoir trahi, en quelque sorte, les Arabes, puisque eux étaient devenus Français, c'est-à-dire la nationalité du colonisateur, alors que les Arabes, non. Et c'est possible, on puisse le dire comme ça, mais on peut le dire aussi autrement. D'abord, ils avaient été très, très, très persécutés par les Arabes. Hein. On dit toujours qu'ils vivaient en frères, c'était formidable, c'était comme Grenade d'Aragon, enfin Grenade du Fou d'Elsa. Oui, il y avait une grande proximité, une grande amitié, mais il y avait aussi de la violence, il y avait aussi de l'humiliation, enfin, etc. Les Juifs d'Algérie, avant la colonisation française, étaient les Arabes des Arabes, si j'ose dire, enfin. Et voilà que tout d'un coup, ils devenaient supérieurs, puisqu'ils épousaient la nationalité du colonisateur, de celui qui régnait. Et en fait, je crois qu'ils ont plutôt choisi l'universel, la déclaration universelle des droits de l'homme. Moi, si j'en juge par les gens qui étaient autour de moi, je voyais qu'ils savaient du La Fontaine, du Victor Hugo, par cœur. Enfin voilà, c'était cette France-là. Est-ce qu'elle a existé jamais? Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est cette France-là qu'ils aimaient, qui les libérait en quelque sorte, qui était universelle. Et donc, à ces apéritifs, ma famille se demandait s'il fallait partir, mais ils se demandaient s'ils étaient des Juifs algériens français, des Algériens juifs français, ou des Français juifs algériens. Et c'est, au fond, à ces apéritifs, ils se posaient des questions ontologiques. Ils se disaient, qui sommes-nous? Et selon la réponse, on part ou on part pas, évidemment. Et ils se sont répondu qu'ils étaient français avant tout, qu'ils savaient justement des vers entiers de Victor Hugo, ou ils connaissaient Chateaubriand. Enfin, la langue, au fond, c'est leur langue qui leur a fait traverser la Méditerranée.
Je crois qu'il y a à peu près 20 ans que j'ai écrit dans un de mes livres que avec Hélène Cixous et Jacques Derrida, vous formiez un trio très similaire. Hein, c'est-à-dire que ce sont les Juifs d'Algérie, même si Hélène Cixous c'est d'Oran et Jacques Derrida, pas du même quartier d'Alger que vous, je crois.
Il est d'Alger, mais il est de la banlieue d'Alger.
Voilà, c'est ça. Et vous avez en commun une pensée. Enfin, vos pensées sont vraiment très communes. Elles sont ce que j'appellerais l'éternel et fermé. C'est exactement ça.
Moi, ça m'a beaucoup flatté quand tu écris ça.
Pardon?
D'être avec ces deux autres, ça m'a beaucoup flatté.
Oui, mais c'est quand même le titre l'éternel et fermé définit bien ce que c'est. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose qui c'est le culbuto. Hein. Ce sont des gens qui arrivent en France et qui font faire le culbuto à des tables de champs sémantiques, au théâtre, à la littérature, à la philosophie, et à beaucoup d'autres choses encore qu'on ne mesure même pas. et le rapatriement des Juifs d'Algérie, entre autres, des pieds noirs en général et des Juifs d'Algérie, moi je trouve que c'est un événement qu'on sous-estime considérablement en France, qu'on sous-estime encore maintenant, et particulièrement en philosophie, puisque vous avez fait de la philosophie 2 ans à Sancier. Alors de là à arriver au théâtre, c'est quoi le premier pas qui mène au théâtre?
Alors,
c'est pas le bateau quand même.
Non, c'est pas le bateau. D'abord, je suis rentré en avion. Mais je pense que... Non, alors d'abord, le théâtre, il y a plusieurs sources possibles. Et comme vous le savez aussi bien que moi, aucune de ces sources n'est vraie, enfin, n'est suffisante en tout cas. Elles autorisent, elles permettent, elles sont un terrain favorable, mais elles ne sont pas la cause de la chose. La cause, je ne la connais pas. Premièrement, ma mère adorait... Non pas le théâtre, parce qu'on n'y allait jamais. Seule ma grand-mère m'emmenait parfois au théâtre de l'Aléti, qui était un grand hôtel à Alger qui avait une salle de spectacle.
Et on jouait quoi ?
Mais elle m'emmenait voir des chansonniers. Moi, je connais encore leurs noms. C'était Pierre-Jean Vaillard, Christian Veubel. C'est-à-dire des chansonniers un peu droitiers, comme ça, qui se moquaient de Charles de Gaulle à l'époque. Donc moi, je ne comprenais rien, ça m'ennuyait à mourir. Mais je voyais tout le monde rire autour de moi, donc j'étais content, ça me faisait plaisir d'accompagner ma grand-mère, de sortir comme ça.
Mais c'est du cabaret, ça.
C'est du cabaret. Et puis, elle m'a emmené voir de temps en temps, une opérette à laquelle je ne comprenais rien du tout, et la musique, cette musique-là me paraissait insupportable, donc vraiment, rien. Mais quand même, la démarche était faite.
C'était quoi, les opérettes ?
Alors j'ai oublié maintenant, je ne sais pas.
C'est vraiment dommage.
Oui, je ne sais plus. Ça, je ne sais plus. Mais bon, voilà. Mais plus tard, ma mère adorait le TNP. Je crois qu'elle n'avait jamais mis les pieds au TNP à Paris, je suis presque sûr. Mais elle était amoureuse, comme tout le monde à l'époque, de Gérard Philippe, et elle était admirative de Jean Villard, de cette démarche-là. Elle savait ce que c'était, évidemment. Et elle m'avait acheté, mais ça c'était déjà à Marseille, hein. Elle m'avait acheté, quand on est arrivé à Marseille, après 62, donc disons 63, mettons, elle m'avait acheté tous les disques du TNP. Encore maintenant, j'ai dans l'oreille les intonations des uns et des autres, enfin, de Gérard Philippe, évidemment, je peux vous le faire tout de suite si vous voulez.
C'est-à-dire oui, que oui, allez-y.
Alors, par exemple, dans Perdican.
Oui.
Pauvre enfant, je te laisse dire, et j'ai bien envie de te répondre à un mot. Tu me parles d'une religieuse qui me paraît avoir eu sur toi une influence funeste. Tu dis qu'elle a été trompée, qu'elle a trompé elle-même, et qu'elle est désespérée. Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenait lui tendre la main à travers la grille du parloir, elle ne lui tendrait pas la sienne ? Par exemple.
C'est exactement ça. Et moi, je l'ai vu, Gérard Philippe dans ce rôle-là, je confirme.
Et donc elle m'avait offert tous les disques du TNP, et puis elle me parlait beaucoup de théâtre, enfin, et voilà, ça c'est une chose. Mais l'une des causes, c'était le hasard, c'est-à-dire que, enfin, faudrait que je remonte à beaucoup de choses, à la politique. J'avais commencé par faire de la politique quand j'étais à Marseille, j'arrivais à peine d'Algérie, j'étais un bébé, mais quand même. Et donc, à un moment, comme j'aimais beaucoup, ça se faisait à l'époque, hein, Brassens, Bob Dylan, et qu'ils étaient guitaristes, et puis même tous les beatniks avaient autour d'un feu de bois gratté de la guitare. Donc je voulais faire de la guitare, et je me suis approché du conservatoire de Marseille, qui s'appelait à l'époque Conservatoire de Musique et de Déclamation.
De déclamation,
ça s'appelait comme ça. Je me demande si ça s'appelle pas encore comme ça, je suis pas sûr. Et j'ai été voir l'huissier, enfin le planton là qui était là, et je lui dis je voudrais m'inscrire en guitare. J'avais 15 ans. Et il me dit, mon jeune ami, premièrement, il n'y a pas de cours de guitare. Il n'y avait pas de cours de guitare. Cet instrument n'avait pas de classe, d'une part. Et d'autre part, il y a un concours pour entrer. Il faut savoir le solfège, enfin, il faut passer un concours d'entrée. Alors j'étais très dépité, très déçu, et je lui dis, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne sait rien faire, qu'on veut juste apprendre? Et il me dit, ah, quand on ne sait rien faire, théâtre. Alors j'ai...
Ça, c'est formidable.
Je me suis inscrit en théâtre, enfin en déclamation. Et j'ai rencontré une femme géniale qui est toujours, parce qu'elle est vivante, Irène Lamberton, qui est très âgée maintenant, mais qui était vraiment une femme formidable. Et j'ai eu de la chance. Et me voilà.
Non, mais qu'est-ce que vous avez déclamé pour entrer ?
Alors, pour entrer, je pense que j'avais déclamé, c'est le mot d'ailleurs, hein, Le mauvais vitrier de Charles Baudelaire.
Parce que vous n'avez pas une pointe.
Que je sais encore par cœur. Mais vous n'allez pas me demander de le faire.
Si, j'aimerais bien. Avec l'accent que vous aviez à l'époque, c'est possible?
Ah, mais j'avais aucun accent.
Oui, vous n'avez absolument alors, aucun ça, accent. C'est une grande bizarrerie, ça.
C'est un phénomène étrange. Ni ma sœur, ni moi n'avons jamais eu l'accent pied-noir ni marseillais. Je peux l'imiter quand je veux.
Vous êtes entré avec Baudelaire.
Avec Baudelaire, oui.
Ne sachant rien faire. Et puis ?
Mais on peut inventer, enfin, retrouver d'autres choses. Par exemple, je vous l'ai dit très vite, mes parents nous emmenaient, ma sœur et moi, au cinéma tous les soirs. C'est pas tous les petits garçons qui peuvent dire ça. Tous les soirs au cinéma. J'allais voir tous les films qui sortaient à Alger. Enfin, j'imagine qu'il y avait peut-être des films érotiques que je n'allais pas voir, mais autrement, tous les films d'amour, les films de gangsters, d'aventure, enfin, tous les films, je les voyais. Tout ce qui sortait à Alger.
Et il y avait des films en noir et blanc là-dedans.
Ils étaient la plupart en noir et blanc, oui.
Oui, voilà, on commence à y voir clair dans le noir. Hein.
Voilà. Ah, on peut dire encore d'autres choses alors avec le noir. Par exemple, en noir et blanc, mon père avait acheté un petit appareil de projection. Et au début, c'était pour projeter un peu comme les diapos aujourd'hui, pour projeter des souvenirs de vacances de la famille. Mais très vite, il avait acheté des films d'animation tchèques, je me souviens. Magnifique d'ailleurs, et puis des Tarzans, enfin des choses comme ça, et en noir et blanc, et muet, et ma mère lisait les bons titres d'abord, enfin les panneaux, et puis au bout d'un moment c'était moi qui lisais les panneaux. Je me souviens donc très bien que je lisais les panneaux des films, des dialogues, enfin voilà. Mais tout ça, c'est des petites choses qui, mises bout à bout, finissent par
donc
dire...
Donc il n'y a eu aucune opposition familiale quand vous avez fait le choix du théâtre?
Ah non, au contraire. Mais mes parents, enfin j'ai eu de la chance, c'est un peu anecdotique hein, de parler comme ça, mais j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que mes parents m'ont jamais barré quelque chemin que ce soit. Au contraire, chaque fois que je choisissais quelque chose, ils m'y encourageaient, enfin c'était... Voilà, ils étaient très contents. Mon père, quand il est mort, par exemple, on a trouvé sous son oreiller... une coupure de presse. Moi, j'avais monté le château de Kafka. J'étais déjà au Conservatoire de Paris. J'avais monté le château d'après Kafka. Et il y avait eu une bonne critique à l'époque de Colette Goddard dans Le Monde. Et mon père montrait, paraît-il, mais quelques heures avant de mourir, montrait, paraît-il, à toutes les aides-soignantes, toutes les infirmières, la critique où il y avait le nom de son fils. Et voilà. Non, ils étaient tous très fiers des choses.
Il y a quelque chose quand même d'intrigant dans votre rapport au théâtre, c'est que vous vous êtes tout de suite projeté comme metteur en scène. Vous préférez régisseur, hein ? Vous aimez mieux le mot régisseur ?
Non, pas forcément, non. Le mot régisseur, je l'aime bien d'abord parce qu'il a ses lettres de noblesse, ça vient de Rex, du roi. Donc de celui qui fait la règle aussi, hein, ce qui est strict, ce qui est droit. La marche à suivre, la voie à suivre, je l'aime bien. Donc, mais je l'aime pas trop non plus parce que il a sous-entendu... Et il sous-entend encore dans l'esprit de certains qu'il s'agit juste d'organiser les choses, mais qu'en fait il n'y a pas une coloration, il n'y a pas une voix différente. Enfin voilà. Metteur en scène, ça veut rien dire. Metteur en scène, on met en scène. En plus, moi, je pense que c'est plutôt l'acteur qui met en scène, parce que c'est lui qui met en scène la parole du metteur en scène, de celui qu'on appelle le metteur en scène. Mais au moins, ça reste ouvert, quoi. Donc finalement, non, je préfère metteur en scène même.
Vous dites dans l'éternel éphémère que c'est Villard qui se définissait comme régisseur.
Ah oui, Villard, oui. Parce que Villard, justement, avait l'idéologie de Villard, si tant est qu'on puisse dire des mots comme ça, mais la pensée, disons, de Villard, c'était que le metteur en scène n'avait pas à se mêler des choses. L'auteur, c'était une pensée, au fond, je le dis avec toute l'admiration et la tendresse du monde, hein, bien sûr. Hein, il faut bien remettre les choses là où elles sont. Mais malgré tout, Villard... peut-être vivait à une époque aussi, il n'y avait pas eu ce qu'on appelle la French Theory, il n'y avait pas eu tous les décalages, les écarts possibles. Il y avait eu Mallarmé, il y avait eu bien des choses, mais il n'y avait pas eu les Barthes et autres, Derrida, Lacan, etc. Et donc il vivait un moment du théâtre où le théâtre, c'était simple. Il y avait un auteur, il y avait une pensée de l'auteur, il fallait la déployer le plus purement, le plus honnêtement, le plus loyalement du monde. Et c'est tout. Et c'est ça, être un metteur en scène. Moi, je pense que c'est pas ça, être un metteur en scène. Je pense qu'être un metteur en scène, bien sûr, c'est ne pas être dans la méconnaissance de ce qui a présidé à ce que l'auteur a écrit telle ou telle chose. Mais qu'une fois que l'auteur a écrit ce qu'il a écrit, il y a une chose étrange qui s'appelle des lettres sur du papier, enfin sur du papier ou sur un support quelconque, mais enfin voilà. Et ces lettres-là, elles sont à lire. Il faut que je vous raconte quelque chose. La première fois que je me suis mis à lire vraiment... Je veux dire pas à lire des bandes dessinées. Les bandes dessinées, c'est une tyrannie. C'est-à-dire que il y a les dialogues dans les bulles, mais il y a la scène. C'est fait. On ne peut pas imaginer que, à l'époque, je lisais Black Le Rock, par exemple, on ne peut pas imaginer que Black Le Rock soit un petit bonhomme brun, puisque c'est un grand bonhomme blond sur la bande dessinée. Et donc, on suit, on est obligé de suivre, on est un suiviste, on suit ce qu'il a écrit. La première fois que j'ai lu, je crois que je suis presque sûr que c'était Sans famille d'Hector Malot, comme beaucoup de gens, un livre sans images, j'avais une inquiétude. Passé le premier moment où je faisais le malin, enfin, où j'étais fier de, où je me voyais en train de lire un livre, hein, où je me surplombais moi-même en train de lire un livre et montrer à tout le monde, notamment à mes parents, que je lisais comme les grands, quoi. Passé ce moment-là, j'avais une inquiétude que j'ai encore, au fond, je crois. Et qui est que je voyais des lettres sur du papier et j'imaginais des scènes. Je croyais voir le signor Vitalis, je croyais voir le chien, Capi, etc. Mais il y avait écrit C-H-I-E-N, il n'y avait pas l'image que j'avais dans la tête. Il y avait écrit signor Vitalis, il n'y avait pas écrit un monsieur que j'imaginais comme ci, comme ça, etc. Même s'il y a des descriptions, elles sont forcément parcellaires et il en manquera toujours des bouts. Et donc j'imaginais des choses et je me disais, mais ce que j'imagine, est-ce que c'est la vraie histoire? Il y a des lettres, mais peut-être que d'autres gens vont lire d'autres choses, vont imaginer d'autres choses. À tel point que quand le signor Vitalis meurt, j'ai pleuré comme une madeleine, mais j'ai relu un chapitre avant pour me dire, en le lisant autrement, il ne va pas mourir, je suis sûr. Je remonte, et il mourrait quand même. Mais donc c'était écrit, si j'ose dire, j'avais un goût du destin. Mais en même temps,
donc ça cherchait à changer le texte écrit.
Exactement, c'est-à-dire que la lettre était là, celle-là je ne la changeais pas, mais tout ce qu'on peut faire avec la lettre, ça doit pouvoir changer.
C'est ce que vous avez fait toute votre vie dans le théâtre. Hein.
Je le pense encore, oui. Oui, oui.
Cet homme que vous voyez là, on parle un peu du grand macabre, pour montrer justement jusqu'où ça a été la lettre. Racontez, pardon.
Qu'est-ce que je raconte?
Dans un livret d'opéra, c'était votre première mise en scène d'opéra, c'était le grand macabre de Ligeti. Voilà Tipa qui l'interfère, des textes, hein, et des textes de ses amis. Et moi, j'étais à la première de Ligeti, j'étais à côté de Ligeti, et j'entends d'un seul coup un texte de moi, hein, interféré par Daniel dans le...
Pas n'importe quel texte. Catherine avait écrit l'opéra ou la défaite des femmes.
Oui, c'est ça qui a déclenché la fureur de Ligeti. J'ai entendu d'un seul coup Ligeti, heureusement qu'il ne savait pas que c'était moi, il s'est levé, il a fait irruption dans le spectacle et il a pas demandé qu'on baisse le rideau, mais ça a été tout juste. Hein, ça a été,
ah, il a fait un scandale, oui. Mais comme la mise en scène était déjà assez folle, qu'il y avait eu beaucoup d'irruptions, d'hétérogénéité dans la mise en scène... Et comme vous le savez, on ne prête qu'aux riches. Les gens ont cru que j'avais mis en scène Ligeti pour faire ça. Et donc, ça n'a pas fait de scandale parce que les gens croyaient que c'était la mise en scène, que c'était normal, quoi.
Enfin, inutile de vous dire qu'ils ne m'avaient pas demandé mon autorisation.
Non.
Voilà. Alors, c'est ça. C'est un pillard de livres. Il y a un aspect pillard, quand même. D'où ça vous vient, l'aspect pillard?
Ah, je ne sais pas, mais je pense que. Moi, je crois que. Vous savez mieux que moi ce que disait Lacan à propos de la publication. Quand on publie...
La poubellication.
Voilà, Lacan disait la poubellication, c'est-à-dire qu'on a jeté la poubelle. Et il jouait sur le mot « litter », qui veut dire à la fois l'ordure et la lettre. Et bien oui, je pense que tout ce qu'on publie, on l'a poubellié, en quelque sorte. On l'a mis à la poubelle. Et moi, je cherche dans les poubelles, voilà. Oui. Mais je n'ai pas l'impression de voler, puisque ça a été publié. Je ne volerai jamais une lettre privée ou des choses comme ça. Bien sûr que non. Mais ce qui a été publié, c'est à moi. Voilà.
Les droits d'auteur aussi, hein?
Ah oui, non, les droits d'auteur. Après, il y a des lois en France ou dans d'autres pays. Je veux bien payer tous les droits qu'il faut. C'est pas la question, mais c'est déconnecté pour moi. Le texte, c'est à moi. Et d'autre part, s'il faut payer, je paye. Ça, c'est autre chose.
Non, c'est pas ça. C'est l'idée de ne pas prévenir l'auteur.
Ah, de ne pas prévenir l'auteur. Mais il a publié. Moi, j'ai été interdit.
Vous m'auriez demandé l'autorisation d'interpoler un texte de moi. J'aurais dit non.
Ah oui.
J'aurais dit non, ça va horrifier le librettiste, ça va horrifier le compositeur. Oui. Et non, j'aurais dit non, ça certainement.
Mais moi, ça se discute. Non, je sais qu'il existe des lois en France. Hein. Par exemple, d'abord, on demande son avis à l'auteur.
Mais c'est pas du point de vue légal, là, c'est du point de vue moral.
Oui, j'entends bien. Et notamment, une partie de la loi qui s'appelle le droit moral de l'auteur, que je comprends qu'à moitié. Je le comprends
et quand, voilà.
que je comprends quand il s'agit, par exemple, de ne pas prendre un morceau d'un film pour faire vendre des pâtes. Quand je vois Fernandel dire que les pâtes Panzani, c'est formidable, je suis outré, je suis scandalisé. Oui. Mais pas parce que l'intention de Fernandel n'était pas celle-là, parce que on a pris un film et on l'a coupé et on l'a détourné, on s'en est servi pour autre chose, à d'autres fins. Et ça, je trouve que c'est pas bien, parce que on a abîmé la lettre du texte, si j'ose dire, qui était le film complet dans son intégrité, dans l'essence possible qu'il avait. Et il n'y avait pas l'histoire des pâtes Panzani dans le film dans lequel jouait Fernandel. En revanche, quand la lettre est préservée, quand on joue cette lettre-là, exactement, sans changer l'ombre d'une virgule, mais la lettre seulement, pas ce qu'on appelle l'esprit du texte. Moi, j'entends partout dire ce qui compte, c'est l'esprit, c'est pas la lettre. Hein, dans la loi, on dit, ben oui, mais l'esprit de la loi, bon, la lettre, c'est une chose, mais on n'est pas obtus, on n'est pas idiot, on n'est pas le nez collé sur la copie, et l'esprit est autre, etc. Et on sous-entend donc toujours que l'esprit, c'est au-dessus, c'est mieux que la lettre. Moi, je pense le contraire. L'esprit, ça veut rien dire. Pour moi, l'esprit, c'est de l'idéologie. Il est daté, à ce moment-là, précis, on pense ça, on est tous d'accord là-dessus, ça nous paraît presque évident, mais 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, ou dans un autre pays, ça ne serait pas du tout évident, et cet esprit donc n'a pas de valeur. En revanche, la lettre, c'est la lettre, c'est matériel, elle ne bougera jamais, c'est la lettre. Et donc c'est elle qu'il faut respecter, me semble-t-il. Et quand on la respecte, c'est-à-dire quand on ne la casse pas, quand on ne l'abîme pas, elle est une terre d'accueil à toutes les possibilités. Et donc je préfère ça. Vous connaissez la phrase célèbre, enfin célèbre, je ne sais pas si elle est si célèbre que ça d'ailleurs, parce que je crois que ce n'est pas une phrase publiée, justement, c'est une phrase qui a été dite comme ça, de Lévinas. Emmanuel Lévinas, un jour, dit devant ses étudiants médusés d'entendre ce qu'ils entendent, « Vous savez, mes amis, il ne faut pas, dit Lévinas, il ne faut pas, il ne faut jamais se demander ce que veut dire un texte. » Comme vous le savez aussi bien que moi, Lévinas a passé sa vie à travailler les textes des autres. C'était une phrase un peu étrange. Et il ajoute malicieusement, non, il faut se demander ce que peut dire un texte. Si un texte peut dire...
C'est sur « veut » et « peut ».
Oui, bien sûr. Un texte ne veut rien dire. D'abord, un texte ne veut rien. Un texte n'a pas de volonté. Un texte, c'est un texte, c'est un objet. En revanche, il ne veut rien, mais il peut dire. Qu'est-ce que ça veut dire « il peut dire » Il peut pas plus qu'il ne veut, en fait, mais il se peut que moi je puisse, grâce à ce texte, dire. Autrement dit, c'est si je peux, grâce à ce texte, dire quelque chose, c'est que ce texte dit cette chose. Même la chose la plus improbable, la plus impensable, la plus inouïe, la plus folle, ce texte l'a dit, puisque j'ai pu, moi, à travers ce texte et grâce à ce texte, la dire. Et ça enrichit les textes. Si le texte veut dire quelque chose, il veut dire une chose. Si le texte peut dire quelque chose, il peut dire une infinité de choses. Je trouve ça 1000 fois plus fort. Donc pour moi, la lettre est à préserver parce que de la lettre, il y a une infinité de sens possibles. Alors que l'esprit, c'est une chose, enfin c'est rien. Et en plus, ça va tomber très vite.
L'esprit,
oui.
J'ai quand même sauté une étape du conservatoire du Marseille. De Marseille, vous êtes passé au conservatoire de Paris. Et c'est là, dites-vous, que vous êtes tout de suite projeté metteur en scène. Plus qu'acteur. Et Dieu sait que vous avez été acteur.
Oui, parce que j'ai rencontré un metteur en scène que j'admirais beaucoup, que vous avez connu, Catherine, qui s'appelait Antoine Vitez, qui a été mon professeur pendant 3 ans. Et Vitez, qui n'avait rien à voir avec la dame dont je parlais, Irène Lamberton. Irène Lamberton était plus conventionnelle, plus classique. C'était le béaba. On faisait des exercices avec des crayons dans la bouche, un tadalat de l'otidili, totolotudulli pour apprendre la diction, etc. Et puis elle nous mettait en scène, mais elle nous mettait en scène de manière très convenue. Magnifique, mais convenue. En revanche, Vitez, je me disais, mais quelle folie, quelle insolence. Moi, j'ai des souvenirs de Vitez. Je peux en relater un seul. Qui va tout de suite, j'espère, vous dire qui était Vitez. Un jour, alors dans mon esprit, je ne sais pas si c'est moi, mais je ne crois pas que c'était moi. Je crois que c'était Jean-Claude Durand, mais c'est flou dans mon esprit, dans ma mémoire. Mettons que ce soit un acteur qui s'appelle Jean-Claude Durand, qui était mon condisciple donc, dans la classe d'Antoine Vitez. Et il jouait, donc, lui, il jouait Richard II. Et il jouait donc le moment où Richard II, hein, chez Shakespeare, et va être destitué, on va l'emmener dans la tour de Londres, etc. C'était le roi. Et il joue donc la déchéance, comme ça, par terre, un genou. Enfin, les autres, Bolingbroke, Northumberland, qui sont autour de lui, comme ça, sont très âpres et très méchants, lui demandent d'abdiquer. Et Vitez dit des choses folles, d'ailleurs. Il dit, et là, il sortirait de sa poche un petit gâteau, il se mettrait à le grignoter. Enfin, folie, comme ça. Et c'est vrai que chaque fois qu'une chose comme ça se passe, Pourquoi un petit gâteau? Je ne sais pas. C'est pas le code de la route, la mise en scène. C'est pas ça, ça veut dire ça, et ça, ça veut dire ça. Justement, ça peut dire, mais ça ne veut pas dire. Mais tout à coup, la déchéance et l'amertume se lisaient mille fois mieux que par n'importe quel jeu plus ou moins déchu et amer. C'est-à-dire que grignoter un petit gâteau comme ça au milieu d'une sorte, c'était comme un procès de Moscou tout d'un coup avec quelqu'un qui, dérisoire comme ça, c'était sublime. Et tout d'un coup, Jean-Claude Durand, mettons que ce soit lui, s'arrête et dit à Antoine, mais tu vois Antoine, ce qui serait formidable là, c'est que tout d'un coup, pour que ce passage-là, il soit vieux. Ça, ce serait génial. Sous-entendu, moi, il soit vieux, ça soit un vieux, un vieil acteur pour le jouer. Ça serait mieux pour un vieux. Et Vitesse le regarde et lui dit, eh ben, sois vieux. Et la classe s'arrête. Durand regarde Vitesse, comment ça, sois vieux? Il avait 22, 23 ans. Vas-y, sois vieux, dit Vitesse. Alors Durand se met à jouer un vieux. C'était sublime. Et moi, je regardais ça et je me disais, mais alors on peut faire ce qu'on veut. Tout d'un coup, on dit sois vieux et on est vieux. Mais c'est génial le théâtre. Je veux être metteur en scène.
C'est voilà, une vision mégalomane. Hein,
oui, mais non, oui et non. Si on pense en termes de pouvoir, mais souvent les gens...
On peut faire ce qu'on veut quand même. Si...
Ça veut dire que c'est ouvert, que c'est libre, que c'est la terre d'accueil de possibilités infinies, là encore. Non, moi, je crois que c'est mieux que du pouvoir. C'est pas du pouvoir au sens pouvoir sur l'autre.
Non, non, c'est pas le pouvoir sur l'autre. Non. C'est le pouvoir de faire revivre Vitali quand il meurt.
Ah, oui. Alors ça, oui, peut-être. Mais de toute façon, j'ai oublié de vous dire une chose très importante à propos des gens qui meurent. C'est que, on a dit juif tout à l'heure. Mon père, ma mère étaient juifs, oui. Mais mon père, pas ma mère, mais mon père était autre chose que juif. Il était avant tout, avant d'être juif, si j'ose dire, il était spirite.
Spirite ?
Oui, oui, c'est-à-dire que mon père...
Il faisait tourner les tables ?
Non, il ne faisait pas tourner les tables. Ça, il trouvait ça même un peu ridicule. Non, non, mais il était sûr et certain que le monde que nous vivons, était composé autant de morts que de vivants. Par exemple, en ce moment, vous voyez, il y a beaucoup de places vides, hélas. Eh bien, mon père, lui, il pensait, non pas que des gens étaient assis à côté de vous et ils étaient morts et invisibles, pas au sens rigolo du terme, mais qu'il y avait, il y a pour mon père, dans cette pièce, là, dans ce grand espace, il y a, je ne sais pas moi, entre 2 et 2 000 morts qui nous écoutent en ce moment. Mon père était persuadé de ça. Les esprits sont là avec nous, autour de nous, et ils parlent. Et moi, quand j'étais petit, il me faisait apprendre... j'avais 7-8 ans, mais peut-être que j'en avais que 4 ou 5, je ne sais pas. Et il me faisait apprendre une prière, où il me disait, alors ça commençait par « Petit bon Dieu, protège ». Alors j'étais dans mon lit, comme ça, après m'être lavé les dents et en pyjama, et puis il s'asseyait au bord du lit.
Petit bon Dieu.
Oui, alors, oui, parce que les juifs étaient très christianisés, il faut bien le dire.
Oui, ce que j'allais dire, c'est pas vraiment l'éternel. Hein,
non, 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 mais il faut savoir que les juifs d'Algérie étaient christianisés, vraiment, dans leur vocabulaire en tout cas. Par exemple, on disait jamais la bar mitzvah, on disait la communion, etc. Et tout était comme ça. Et donc, petit bon Dieu protège. Et puis alors, il y avait monsieur machin, madame machin, etc. Donc, il m'avait dicté des noms et je répétais les noms. Je pense qu'il pensait qu'un enfant, dans sa pureté, allait directement à Dieu, alors qu'un adulte, c'était plus compliqué pour arriver jusque là-bas. Et puis, simplement, les noms s'augmentaient parce que les gens mouraient autour de nous. Et donc, en 55, par exemple, ou 56, il y avait, mettons, je dis n'importe quoi, 12 noms. Mais en 57, il y en avait 22. Et en 58, il y en avait 43. Et moi, je les disais, comme ça. Petit bon Dieu protège, un tel, un tel, un tel, un tel. Et puis on ajoutait un tel, et un tel, et un tel, et un tel. Voilà. Donc, c'était pour que les noms n'aillent pas dans l'oubli, sans doute, ne se perdent pas dans l'oubli. Mais c'était aussi, je crois, parce que pour mon père, ils étaient là. Il fallait les protéger. Ils étaient toujours là.
Mais c'était quoi l'origine de votre famille dans la trilogie des Juifs d'Algérie? Ils appartenaient à laquelle des branches?
Des diasporas, oui. Alors j'en sais rien, on ne peut pas le savoir, enfin je crois qu'on ne peut plus le savoir, mais vraisemblablement ma mère disait ça en tout cas, mais on n'est pas obligé de les croire, parce qu'il disait ça, mais est-ce que c'était vrai? On ne sait pas. Ma mère sans doute avait fait partie de la diaspora d'Espagne et du Portugal, c'est-à-dire chassée par les rois catholiques, et mon père sans doute était là bien avant, donc peut-être les 700 ans avant Jésus-Christ, j'en sais rien, mais je crois, c'est très possible en tout cas, parce que Mesguich est un nom à consonance berbère. Alors, est-ce que ce sont des juifs qui se sont berbérisés, comme il y a des non-juifs en France qui sont francisés, ou est-ce que c'était des berbères qui avaient été judaïsés et qui après, voilà, étaient des juifs, donc, mais au départ des berbères. Je n'en sais rien. Il y a près de Constantine un village qui s'appelle Mesguiche, avec un E, mais ça, c'est rien. Donc un village qui s'appelle Mesguiche. Mais mes parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents, eux étaient d'Alger. Mais rien n'empêche que des gens de Constantine aillent à Alger et s'y rétablissent.
Mais le mot spirit, c'est lui qui disait qu'il était spirit ou c'est
ah
vous
oui.
qui dites ça?
Non, c'est lui. Il était abonné à la revue Spirit, il admirait beaucoup Allan Kardec, qui était le fondateur de la théorie spirit. Non. Alors, c'est pas non plus...
Le mot djinn n'apparaissait pas?
Non. Non, et puis c'est... Comment dire? Non, il le disait pas. Et puis ça fait partie aussi du judaïsme. C'est pas si éloigné que ça. Mais enfin, disons que
ça fait partie de la Kabbale, pour être tout à fait exact.
Ils étaient un peu spécialisés là-dedans, quoi. Voilà, les Mesguiches. Parce que ses frères aussi pensaient comme ça. Son père aussi pensait comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est presque une religion de famille. Pourquoi je vous dis tout ça? Les esprits. Eh ben, je ne sais plus pourquoi je vous dis tout ça.
Parce que ça n'est pas loin du théâtre. Et qu'évoquer les esprits, c'est ce que vous faites aussi.
C'est ce que je fais sans arrêt. Oui, c'est à propos du Seigneur Vitalis qui meurt. Voilà, ça me revient. Oui, mais moi je crois qu'au théâtre, il n'y a que des esprits. Ce qu'on appelle des personnages, ce n'est pas des personnes. Un personnage n'a rien à voir avec une personne. J'en ai une preuve. Les personnes, en tout cas ici, en France, là, elles ont toutes, je pense, une pièce d'identité dans leur poche, ou en tout cas elles pourraient l'avoir, une montre au poignet, ou si elles n'en ont pas, elles pourraient l'avoir. Enfin, donc elles ont un sens exact de l'heure, de la date, et de leur identité, de qui elles sont. Les personnages, moi je ne crois pas que jamais un personnage n'a eu ses papiers. Jamais. Jamais un personnage n'a l'heure exacte, l'heure qu'il est dans la salle. Jamais. C'est impossible. C'est structurellement, essentiellement impossible. Donc un personnage, ce n'est pas une personne. Un personnage, c'est un flux de personnes, c'est un mélange. Par exemple, en chacune des personnes que nous sommes, aussi bien vous dans la salle que nous sur scène, en chacune des personnes, il y a de très nombreux personnages. C'est pour ça que quand j'entends dire que Médée est un personnage énorme, immense, que nous sommes tout petits à côté d'elle, ou bien, je ne sais pas, le Cid ou Hamlet ou Électre ou qui vous voulez, ou Antigone, je trouve que c'est faux. Je trouve qu'il faudrait penser exactement le contraire.
C'est-à-dire
que la plus petite des personnes d'entre nous, la plus piètre des personnes qui marchent dans la rue, la plus banale des personnes, est mille fois plus grande qu'Antigone, mille fois plus grande que Médée, mille fois plus grande que Hamlet. Parce qu'en elle, il y a une part qui s'appelle Hamlet, une part qui s'appelle Médée, une part qui s'appelle Antigone, etc.
C'est quand même étrange que vous ayez commencé par Médée. Parce que moi, je suis très, très préoccupée depuis plusieurs années de la recrudescence des infanticides maternels. Hein. Ça, c'est en France, hein, c'est maintenant, mais on a quand même eu, il y en a quand même eu un sacré paquet, et il n'y en avait pas eu depuis le 19e siècle. Il y a eu une épidémie d'infanticide maternel accompagné du cannibalisme, 20 ans après la disparition de Napoléon, qu'on appelait l'ogre. Hein, Foucault avait travaillé là-dessus. Donc dans les années 1835, il y a eu ce genre d'épidémie, et je me demande beaucoup. Pourquoi il y a une telle épidémie d'infanticide maternel, les bébés congelés, par exemple, et vous commencez par Médée? C'est quand même extrêmement troublant, cette histoire.
Alors, je commence par Médée d'abord parce que j'ai monté Médée, j'ai mis en scène cette pièce.
Vous n'avez pas monté que Médée.
Et j'ai traduit Médée, en plus. Mais non, je n'ai pas monté que Médée, mais j'ai traduit Médée. Mais à propos de Médée, alors autant les infanticides, oui, maternels, oui, c'est vrai, je l'entends et je le vois dans les infos, enfin, aussi bien que vous, mais Médée, c'est pas sûr qu'elle ait tué ses enfants, elle. La dame qui s'appelle Médée.
Mon œil.
Mais non, parce qu'il y a toute une théorie, je vous le dis comme ça, il y a toute une théorie qui dit que à Corinthe, ça se passe à Corinthe, elle avait tué donc la fille du roi, parce que Jason était amoureux de cette jeune fille et il allait l'épouser, et le père de cette jeune fille, donc le roi de Corinthe, elle les avait tués. Les Corinthiens, pour se venger, ont tué ses enfants. Mais quand Euripide a voulu écrire cette histoire, les Corinthiens sont allés le voir en lui disant « Écoutez, pour la publicité et pour la bonne image de notre ville, il ne faut pas dire ça. Il faut dire que c'est cette salope qui a tué notre roi, qui a tué ses propres enfants. »
Et après quoi, elle s'enlève sur le char du soleil ?
Et c'est ce que Euripide écrit. Et il écrit du coup qu'elle part avec le char du soleil. Mais c'est Euripide qui le dit. Médée, qui a existé, hein, il y a une dame qui s'appelait Médée, vraiment. Médée, il fallait pas pour les Corinthiens, dire que c'était eux qui avaient tué les enfants. Je ne sais pas si c'est vrai, peu importe. Moi, je me plais à penser que c'est la misogynie des Corinthiens et non pas cette dame. Parce que cette dame, elle est géniale, Médée.
C'est quand même incroyable ce que vous dites. Bon, d'accord, elle est géniale.
On dit
elle découpe son frère en petits morceaux quand même.
Oui, mais bien sûr. Non, mais j'ai pas dit que tout ce qu'elle faisait était génial. Quand quelqu'un est génial, il n'est pas toujours génial. Les grands hommes ne sont pas toujours grands, ils sont parfois petits, mais c'est quand même des grands hommes ou des grandes femmes. Non, je pense que Médée, elle est haïe d'abord parce qu'elle a tué le roi. On ne tue pas un roi, surtout quand on est étrangère. Elle était étrangère à Corinthe. Mais d'autre part, c'est une femme savante. Elle sait plein de choses. C'est ça.
Magicienne.
Oui, mais magicienne, c'est quand on comprend pas. On dit c'est une magicienne puisque je sais pas ce qu'elle fait, c'est de la magie. Mais non, elle avait lu des livres. Elle connaissait les pharmacies, que ce soit aussi bien remède que poison. Mais elle connaissait la pharmacie. Et ça n'existe pas. Une femme qui sait tout ça, ça n'existe pas. Or, il y en a une qui sait, qui a lu des livres, qui a travaillé, etc. C'est donc forcément une force maligne, puisqu'elle sait des choses. Elle tue en plus le roi, donc on va dire que c'est la méchante.
C'est-à-dire, vous me racontez la sorcière de Michelet, là.
Oui, non, je raconte surtout une chose que Catherine, vous connaissez bien, puisque vous avez travaillé dessus, qui est le Fou d'Elsa, c'est-à-dire cette phrase qui est au début du Fou d'Elsa, je crois, « L'histoire toujours est écrite par les vainqueurs ».
Oui.
Et les vainqueurs sont les Corinthiens. Donc après, ils disent que la méchante, c'était Médée. Mais Médée aurait gagné, et c'était les Corinthiens les méchants.
Je suis quand même frappée par la coïncidence entre le nombre de Médées qui ont été montées au théâtre et cette épidémie d'infanticide. Ça reste imprimé. J'en ai pris conscience en voyant Isabelle Huppert, qui est une de mes amies proches, dans le rôle de Médée. Ça m'a été insupportable. Je n'ai pas supporté ce que je pressentais être un de ces moments d'inconscient collectif. C'est un mauvais mot, mais un mot qui n'a pas grand sens, qui dérive loin et qui est en train de dériver loin. Je crois qu'on est parti pour cette dérive mais tout à fait mauvaise. Enfin bon, je m'égare là. Alors, on ne va pas s'égarer très longtemps. C'est quand même pour ça que vous avez écrit un livre dont vous dites que vous l'avez écrit à plusieurs mains, et que vous avez monté tant de spectacles où le même personnage est dédoublé, détriplé, démultiplié jusqu'à combien ?
Alors, j'emploie ce vocabulaire. Je dis, il y a un double. Hein, et j'engage, je ne sais pas, Hamlet et son double, etc. Mais je sais au fond de moi que ce n'est pas le juste mot. Je ne devrais pas dire double. Je devrais dire demi. Il y a une Hermione ou une Andromaque, et puis il y a deux actrices pour jouer Hermione, deux actrices pour jouer Andromaque. Ce n'est pas des doubles, c'est des demi. À elle deux, elle s'appelle Andromaque. Donc c'est la moitié d'une Andromaque. Et pourquoi ces demi-là, ou ces doubles si on veut, pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, c'est pour qu'il y ait zéro Andromaque, zéro Hermione. Moi, ce qui m'intéresse au théâtre, c'est qu'il y ait zéro. Voilà, ça y est, je l'ai dit, c'est la formule. C'est-à-dire que c'est pas une Andromaque de plus sur la scène, c'est une moins une, c'est pas une plus une.
Mais ce qu'on voit, ce sont deux femmes.
On voit deux femmes, bien sûr, mais parce qu'il faut bien qu'il y en ait deux pour qu'il y en ait zéro, je m'explique.
Oui, ça mérite explication, ça,
pas de doute. Il y a une Andromaque, par exemple, qui pleure, qui est au jardin et qui pleure. Moi, ce que j'aime beaucoup au théâtre, c'est qu'on tranche, qu'on dit quelque chose. J'engage cette actrice pour jouer Andromaque, et forcément, cette actrice, elle est comme ça, elle mesure 1 mètre, je sais pas quoi, 60, elle a des cheveux roux, elle est mince, et voilà. Et elle a les yeux bleus. Eh bien, donc Andromaque sera 1 mètre 60, rousse, les yeux bleus et mince. Mais alors, et toutes les autres Andromaques possibles, celles qui sont grosses et pas minces, celles qui sont brunes et pas rousses, celles qui ont les yeux marrons et pas bleus, comment on va faire ? Or, elle devrait être là, de droit. Alors c'est faux. Et donc ça sera toujours faux. Dès que je trancherai, dès que je dirai quelque chose, ce sera faux. Ce sera pas assez. Maintenant, j'engage deux actrices pour jouer Andromaque. Là, la mince rousse, elle est au jardin et elle pleure. Et la moins mince et brune, ou blonde, peu importe, elle est à la cour et elle rit. Que fait Andromaque à ce moment-là ? À ce moment précis, elle rit ou elle pleure ? Ni l'un ni l'autre, enfin tous les deux, mais ni l'un ni l'autre. Elle est grosse ou elle est mince ? Elle est brune ou elle est rousse ? Et c'est le qui me paraît le théâtre. C'est-à-dire que j'ai tranché deux fois afin de ne pas avoir tranché. La vraie Andromaque, celle que tout le monde veut voir, celle qui est comme le mouton parfait dans la boîte du Petit Prince, on ne doit pas la voir. C'est le creux, c'est la distance qui sépare la première Andromaque de la deuxième Andromaque. C'est ça Andromaque. La différence entre Andromaque et Andromaque, voilà, c'était ça, Andromaque.
Dessine-moi Andromaque.
Voilà, dessine-moi Andromaque. Et donc on aura fait un surplus de théâtre pour toucher quelque chose qu'on ne peut pas toucher autrement. C'est de l'algèbre. L'algèbre, c'est A-1. L'arithmétique, c'est 0. C'est pas 0, je fais pas 0. Je fais A-A.
Mais vous avez quand même conscience que vous vous mettez dans une position de créateur, au sens, avec un grand de créateur, du Dieu éternel créateur.
Ben, dès qu'on fait quelque chose, non ?
Comment ?
Dès qu'on fait quelque chose.
Pas seulement. Moi, je suis frappée de retrouver... C'est ce que vous avez dit de votre père. Son spiritisme venait sûrement de la Kabbale. Je trouve qu'il y a beaucoup de pensées de la Kabbale dans ce que vous racontez là et dans ce que vous faites. Mais vous dédoublez, mais vous allez jusqu'à combien de personnes dédoublées ? Enfin, c'est-à-dire, une Andromaque peut aller jusqu'à 5, 6 ?
Non, Andromaque, par exemple, ça, à mon avis, ça ne nécessite pas 5, 6. Deux suffisent, parce que par deux points, il ne passe qu'une droite.
Ophélie, c'est deux aussi. Hein.
Oui, mais Hamlet, par exemple, c'est pas moi qui l'ai fait, d'ailleurs, c'est Shakespeare. Hamlet, il est seul. Hein, il y a Hamlet, très bien. Mais Laërte, c'est Hamlet. C'est une mise en abîme d'Hamlet. Hamlet, on a tué son père et il doit se venger. Eh bien, Laërte, on a tué son père et il doit se venger. Voilà deux Hamlet. Fortinbras, c'est encore un double d'Hamlet. On a tué son père et il doit se venger. Trois Hamlet. Polonius, c'est un double de... Enfin, prenons Claudius. Claudius a tué le père d'Hamlet et il est dans la chambre de la reine. Il est assis sur le trône du père d'Hamlet. Mais tout Hamlet veut tuer son père, c'est la moindre des choses. Tout homme veut tuer son père, d'une certaine manière. Et voilà qu'on lui a soufflé ce meurtre et que quelqu'un d'autre l'a fait. Donc Claudius s'est mis à la place d'Hamlet. À la place d'Hamlet père, mais aussi à la place d'Hamlet fils. D'ailleurs, Hamlet père et Hamlet fils sont l'un à la place de l'autre. Ils s'appellent tous les deux Hamlet. Et donc voilà encore un autre Hamlet. Polonius est dans la chambre de la reine au moment où Hamlet arrive. Qu'est-ce qu'il fait dans la chambre de la reine ? Il est à la place de Claudius. Donc il va mourir lui aussi. Et c'est donc encore un Hamlet, puisque Claudius était un double de Hamlet père, qui était un double d'Hamlet, qui était un double de Fortinbras, qui était un double Horatio de Laërte, etc., etc. Et en fait, quand on regarde bien, il n'y a qu'une personne. Bien sûr qu'elle est déconstruite.
Il y a quand même deux femmes.
Alors, il n'y a qu'une personne et il n'y a qu'une autre personne. Parce que ça, c'est pas
pareil. Parce qu'Ophélie et la reine sont une seule.
Parce qu'il y a une différence sexuelle et que, effectivement, Ophélie n'est pas un double d'Hamlet, mais Ophélie est un double de Gertrude. Et Gertrude est un double d'Ophélie. Comment ? Eh bien, c'est très simple. D'ailleurs, Shakespeare l'écrit même, en quelque sorte. À un moment, Ophélie va voir son père en lui disant « Papa, papa, c'est horrible ce qui s'est passé. Hamlet est rentré dans ma chambre. Il avait l'air de sortir de l'enfer. Il était très violent. Il avait les yeux fous, etc. » Très bien. Un peu plus tard, Gertrude va voir Claudius et elle lui dit « Claudius, Claudius, c'est horrible ce qui s'est passé. Hamlet est rentré dans ma chambre. Il avait les yeux fous. Il avait l'air de sortir de l'enfer. Il a tué Polonius, etc. » Tout ça est sans arrêt la même chose. Il n'y a qu'un homme et qu'une femme. Il n'y a toujours au théâtre qu'un homme et qu'une femme, systématiquement. Après, ça se décline, ça se déploie, ça s'ouvre. Hermione est un double d'Andromaque. Oreste est un double de Pyrrhus. C'est à l'infini. Un double, ou alors son autre à l'envers, qui permettrait de voir encore un troisième personnage, le trait d'union ou le trait de séparation entre ces deux personnages, et qui est le vide, qui est le trou, la différence, l'écart...
Le zéro. Ça vous a pris quand, cette obsession pour Hamlet ?
Ça m'a pris...
C'est une maladie qui l'a pris.
Oui, c'est une maladie, oui. Ça m'a pris en 1960...
Une hamlétide.
Voilà, l'hamlétide. Ça m'a pris en 1977. Je sais très très bien la date, parce que c'était la date où j'ai monté mon premier Hamlet, et où Georges Lavaudan, qui était venu... Georges Lavaudan, je ne le connaissais pas, mais vous voyez qui est Georges Lavaudan, hein, metteur en scène intéressant, français... Et qui a dirigé l'Odéon pendant très longtemps. À l'époque, il était le directeur du centre dramatique de Grenoble.
Et qui était un centre dramatique illustre. Donc, Catherine Tasca avait dirigé.
Catherine Tasca dirigeait la Maison de la Culture,
Grenoble, il y avait une atmosphère très particulière.
Le centre dramatique existait. Et Georges Lavaudan était venu voir des répétitions que j'avais faites en public, des répétitions publiques que j'avais données à Avignon, dans le cadre de Théâtre Ouvert. À Avignon, et il, pendant un mois, pendant tout le festival, je répétais en public un spectacle qu'on a joué le dernier jour du festival. Et il y avait donc des gens différents, comme ça, comme des touristes, qui venaient voir, qui s'asseyaient, qui regardaient, qui trouvaient ça intéressant ou pas, j'en sais rien, et puis qui s'en allaient. Et il y avait une personne qui venait à toutes les répétitions, qui était venue à la première et qui ne quittait plus la salle qui restait à toutes les répétitions, c'était Georges Lavaudant. Et à la fin de ces répétitions, il avait les cheveux longs à l'époque, et puis il avait l'air d'un vieil Indien fatigué alors qu'il avait 20 ans. Hein. Et il me dit, ça serait bien, tu vois, que tu viennes faire un truc quoi dans mon théâtre. Quoi. Je dirige un théâtre là depuis un an. Je dirige le Centre dramatique de Grenoble. Et moi, je l'ai pris pour un imposteur. Je ne connaissais pas du tout. Ce type complètement fou, c'est une espèce de vieux beatnik qui me raconte qu'il veut que je monte un spectacle. Et puis, je regarde dans l'annuaire des comédiens et des théâtres. Et je me dis, merde, c'est vraiment vrai. Il a un théâtre et il a un Centre dramatique national. Donc, je l'appelle, arrivé à Paris. Et je lui dis, exprès pour voir un peu ce qu'il avait dans le ventre, je lui dis, je monte le plus grand classique de la Terre. Je monte Hamlet. T'es d'accord? Tu le produis? Et il me dit, ouais, d'accord, pourquoi pas Hamlet, ok. Et j'ai monté Hamlet. Mais moi, je l'avais choisi au hasard, parce que je trouvais que c'était un bon gros classique, bien connu, bien juteux.
Vous aviez quel âge?
J'avais 25 ans, un truc comme ça, 26 ans, je sais pas. Une chose comme ça. Non, non, je sais. Je peux dire très exactement, 77. J'avais combien? 25.
Et Georges, 23.
Et Georges, non, il est plus âgé que moi. Oui. Non, il devait avoir 28, 29, un truc comme ça. Et donc, je monte Hamlet. Et là, c'est la révélation. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que la moindre phrase était géniale. Et que quand je croyais comprendre quelque chose, je n'avais compris qu'un dixième de la chose. Parce que le lendemain, je comprenais un peu mieux. Mais oui, il y a aussi ça. Et finalement, je me rendais compte que ce n'était pas moi qui mettais en scène Hamlet, mais Hamlet qui me mettait en scène. Et j'ai attrapé la maladie, donc.
Et ça continue.
Et je me suis dit, à l'époque, je vais le monter tous les 10 ans. Parce que j'en aurais jamais fini.
C'est quand le prochain ?
Et c'est à peu près ce que j'ai fait. Comme le dernier, c'était l'année dernière.
Il faut attendre
un petit moment là maintenant.
Auriez-vous la bonté de prendre votre livre et de lire la voix off de la page 110 ?
Je crois qu'il n'y a pas de mise en scène, si sérieuse soit-elle, sans humour. L'humour au théâtre est essentiel, élémentaire. Il n'y a pas de théâtre sans légèreté, sans ludisme, sans gaieté devant la lecture. Toute mise en scène est danse acidique mentale. Je sais pourquoi. C'est à cause de cette phrase.
Hein. Bah oui.
Il n'y a pas de gage à donner, pas de certificat de souffrance de l'artiste. Au théâtre, ce qui doit se jouer avant toute autre chose, c'est simplement le bonheur de faire du théâtre.
C'est ça le zéro, bonheur de faire du théâtre. Alors j'aimerais quand même que vous m'expliquiez deux choses, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces quelques lignes. La danse acidique mentale, oui, d'abord on va commencer par ça, mais ça c'est plus facile que le reste, qui est non seulement l'humour, quelquefois la dérision, mais votre goût pour les arts des illusions, puisque la magie professionnelle, hein, c'est-à-dire les feux d'artifice, les tours, tout ce qui est artifice.
Parce que je crois que c'est une question d'accoutumance. La magie, ce qu'on appelle la magie, les magiciens au cabaret, hein, le gars qui coupe la femme en deux, ou bien qui marche sur un fil, comme ça, qui traverse toute la scène sur un fil, etc. Mais alors que c'est pas vrai. Sur une épée, par exemple, il marche sur la lame d'une épée. Toutes ces choses-là, ou même la grande illusion, comme David Copperfield, enfin, ou Siegfried and Roy, hein, les grands magiciens de l'histoire, et bien d'autres. En fait, c'est quoi? C'est pas de la magie, évidemment. La magie, c'est la magie noire. Là, il s'agit de magie laïque, si j'ose dire. C'est quoi? C'est de la machinerie. C'est de la machinerie, la magie.
Oui, c'est une affaire de nœuds et de coulissants.
Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à ça. Moi, je trouve que quand quelqu'un arrive, mettons une fille qui s'appelle, je ne sais pas quoi, Monique Dupont, elle entre et elle dit « Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore ?» Et qu'elle dit, elle sous-entend « Je suis Hermione », c'est de la magie. C'est pas vrai, c'est pas Hermione, mais c'est Hermione, c'est de la magie. Ce décor-là qui est en carton-pâte et qui pourtant dit Rome ou bien je ne sais pas quoi, ou Venise, c'est de la magie. Simplement, c'est de la magie admise. Ça, on le sait, c'est de la magie banale, c'est pour faire joli, c'est le décor. Mais maintenant que comme, je ne sais pas moi, dans Titus Andronicus, un livre, le rideau s'ouvre, j'ai fait ça vraiment, un livre ouvert s'avance lentement dans l'espace, tenu par rien, vers les spectateurs, et puis tout d'un coup prennent feu et tombent en poussière. Il n'y a jamais eu de livre, et alors le spectacle commence. Ça, on n'a pas l'habitude, mais c'est exactement la même chose.
Comment ça se fait, ça?
Je ne le raconte pas, ça c'est des secrets professionnels. Non, je me ferais massacrer par les magiciens si je donnais le truc.
Alors que vous seriez capable d'expliquer tout, de la façon dont vous faites une mise en scène, vous respectez le secret du magicien.
Mais oui, parce que le magicien, il m'a vendu parce que je l'avais payé. C'est un collaborateur, il a été salarié, il a même peut-être touché des sous pour tel ou tel matériel. Mais il ne m'a pas vendu le fait que je le dise à tout le monde. Il l'a vendu pour le spectacle, donc je n'utilise que ce que j'ai acheté.
Donc ce sont des ingénieurs.
Oui, oui.
Oui, ça me fait penser à Leibniz qui avait inventé une étrange machine. Il était ingénieur d'ailleurs, hein, recruté par Colbert. Et quand il était en France, il avait inventé un truc insensé, de relier toutes les loges des opéras au bureau du préfet de police, avec des tuyaux qui reliaient toutes les loges de tous les opéras au seul cabinet du préfet de police. Et ça s'appelle Drôle de pensée pour une nouvelle sorte de représentation. C'est un texte pour vous.
C'est génial, oui, oui, oui.
Alors, danse acidique mentale, maintenant.
Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit cette phrase. Enfin, je le sais un petit peu, mais...
Si vous le savez, dites-le.
Non, mais je le sais qu'à peine. À un moment, dans ma vie, j'ai vécu à Paris, dans le 19e arrondissement, devant une école juive, et une école juive traditionnaliste, enfin, avec les racines de Lubavitch, voilà. Et puis, de temps en temps, comme ils le font souvent, ils se mettaient à sortir et puis à danser, tous comme ça. Et je voyais des gens, donc, habillés comme au XVIIIe siècle, hein, avec le chapeau, le truc en fourrure, etc., qui dansaient, qui chantaient et qui dansaient. Voilà, une danse hassidique. Les hassides, vous voyez ce que c'est, hein, c'est une tradition populaire.
Née en Pologne,
et en Russie siècle. Blanche maintenant, au XVIIIe siècle. Et au fond, c'est resté comme tel. C'est un peu comme, c'est pas, ça n'a rien à voir, mais c'est un peu comme les Mormons qui sont toujours habillés comme à l'époque. Et bien voilà, ils sont toujours habillés
pas
comme
ça. Pas les Mormons, les Amish.
Oui, c'est ça, voilà. Et donc, quand vous croisez des Juifs avec des chapeaux et des petites, comment on appelle ça, téfilines, je ne sais plus, c'est parce que c'est comme ça que c'était au XVIIIe siècle en Pologne. Et donc, je voyais ça et je trouvais ça rigolo, théâtral, spectaculaire, enfin voilà. D'autre part, je lisais des livres, de toutes sortes de livres, de psychanalyse et de philosophie, mais aussi donc de ce qu'on appelle, comme ça, de manière très lâche et très ouverte, la pensée juive, comme si on avait qu'une. Et donc, je trouvais ça passionnant, je trouvais ça intéressant. Pas du tout de manière religieuse, je suis athée comme c'est pas permis, mais je trouvais ça passionnant, vertigineux même par moments. Et je trouvais qu'en plus, dans ce qu'on appelle la pensée juive, il y a très souvent énormément de philosophie, énormément de psychanalyse, et que de temps en temps, je trouvais génial tel ou tel écrivain, ou tel philosophe, ou tel psychanalyste, et en fait, je retrouvais exactement la même chose dans des textes qui dataient de plusieurs siècles auparavant, et qui étaient peut-être même encore plus fulgurants dans ce qu'on appelle la pensée juive que dans la pensée des penseurs d'aujourd'hui, laïcs, etc. Bref, donc je lisais beaucoup ça, et je pense donc, cette phrase, que le théâtre, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que on est caché, on travaille en répétition, à un moment on sort, on danse, mais au lieu de danser physiquement, on n'est pas des danseurs sur la scène, c'est une façon de soulever les choses, de mettre entre guillemets les mots les plus banals, les plus quotidiens, tout d'un coup de les suspecter, de les décoller et de les soulever, culbuter peut-être, hein, je ne sais pas, et tous ces mouvements-là, faire ces écarts, etc., ça veut dire qu'on ne les laisse pas en repos et ça veut dire que c'est en mouvement, ça n'est jamais immobile, inerte. Voilà pourquoi c'est une danse mentale.
Alors le fondateur du hassidisme, c'était le maître du bon nom, le Balaam Shem Tov, commence son livre par une phrase que je vais vous livrer parce qu'elle va certainement vous plaire, la prière et le coït avec la présence divine.
On dirait du Lacan, non ?
On dirait du Lacan, mais ce n'est pas du Lacan, c'est du Baal Shem Tov. Oui.
Mais Lacan a tout volé au Baal Shem Tov, je l'ai toujours
Alors,
dit.
Comme on n'a plus qu'une petite vingtaine de minutes avant de passer la parole au public, je voudrais quand même qu'on reste encore un peu sur le théâtre, parce qu'il y a le professeur, ensuite l'acteur, donc on n'en est pas sorti. Je voudrais vous demander quel est votre plus mauvais souvenir de théâtre et quel est votre meilleur souvenir de théâtre, d'une représentation, hein, pris dans une représentation. On a posé la même question à Olivier Meyer il n'y a pas longtemps et à Brigitte Lefebvre, son épouse. Olivier Meyer a raconté ici même, à la place où vous êtes, une histoire absolument insensée d'une tournée de danseurs. Est-ce que c'était des danseurs ou des... En tout cas, ils étaient géorgiens, ils ne parlaient pas le français. Il y en a un qui s'est égaré, c'était des artistes de cirque. Il y en a un qui s'est égaré dans le théâtre. Il a vu un bouton rouge, il a appuyé, et c'était les grands secours, ce qu'on appelle... Oui, lui, c'est ce que c'est que les grands secours. C'est-à-dire le théâtre entier a été inondé.
Inondé d'eau, parce que le grand secours, c'est quand le théâtre risque de prendre feu et que alors il y a des trompes d'eau qui abîment.
Donc
tout.
Le type qui voulait
sortir... Parce que tout ce qui est électrique est foutu. Une fois qu'on a tiré le grand secours, le théâtre est en travaux pendant 6 mois.
C'était en Allemagne, le théâtre a été fermé pendant un an.
Voilà, c'est ça. C'est une catastrophe.
C'était quelque chose comme ça. Racontez-moi quelque chose comme ça.
J'ai pas trop ça, moi, non.
Le grand secours, c'est quand même un incident assez rare, mais vous avez sûrement des catastrophes, des mini-catastrophes. J'aime beaucoup, moi, les catastrophes dans le théâtre.
Oui, il y en a une qui ressemble un peu à ça, mais elle est beaucoup plus modeste. C'est que quand j'ai monté Titus Andronicus de Shakespeare, j'ai monté beaucoup de Shakespeare, j'allais voir le spectacle, comme souvent je fais d'ailleurs, tous les soirs. Tous les soirs, je vais voir mes spectacles et je prends des notes et puis je dis des choses après aux acteurs. Enfin, d'ailleurs, je ne devrais pas le dire en public, mais les dernières représentations de mes spectacles sont 1000 fois supérieures aux premières parce qu'on a répété, si j'ose dire, un mois et demi de plus, enfin, puisqu'on continue à travailler sans arrêt. Et donc, j'allais voir, comme pour les autres spectacles, tous les soirs le spectacle. Mais un jour, j'en ai eu marre. J'étais en overdose. Je vais au théâtre, c'était au théâtre de l'Athénée, je vais au théâtre. Et puis, j'étais avec mon épouse de l'époque, et puis je lui dis, j'en ai marre, j'ai pas envie de voir le spectacle ce soir. Enfin, est-ce que tu veux pas qu'on aille dîner à côté, tranquillement, et on vient à la fin du spectacle pour les saluer, et puis on boira un verre avec les acteurs, et on leur dira au revoir, mais j'ai pas envie. Très bien, me dit-elle. Et on va donc à côté, manger quelque chose. Et puis je vois le régisseur sortir, et je me dis, mais quelle heure il est pour qu'il sorte, là, le régisseur, c'est normal, ça ? Et je sors moi-même du restaurant, donc je dis au régisseur, mais qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, mais comment tu sais pas ? Tu n'étais pas dans la salle ? Je dis, ben non, qu'est-ce qui s'est passé ? On a baissé le rideau, mais pourquoi ? Mais parce que ça prenait feu, mais quoi ? Dans Titus Andronicus, il y avait des livres, le sol entier et les côtés et le plafond étaient des livres, c'est une bibliothèque renversée, des livres sculptés comme ça, mais il y avait... 2-3 livres qui n'étaient pas sculptés et qui, dans la même veine que ce que je vous ai raconté à propos du livre qui s'approche et qui brûle, tombaient. Chaque fois qu'on tuait quelqu'un, un livre en feu tombait. En feu. Il prenait feu, il tombait, et puis il n'y avait plus rien au sol. Enfin, c'était de là, voilà. Mais c'est un vrai livre, hein. Et je ne vous dis pas comment. Et donc, chaque fois qu'il y avait un meurtre, et Dieu sait qu'il y en a dans Titus Andronicus, il y avait un livre en feu qui tombait. Mais un jour, c'était les livres, pour qu'ils tombent, il y avait un petit mécanisme, ça je peux le raconter, comme un ressort. En télécommande, et donc le clapet se dégageait, et le livre tombait. Et là, l'un des livres, le ressort n'a pas fonctionné, mais le livre a pris feu quand même.
Donc ceux d'à côté aussi.
Donc, et ces livres étaient en résine, c'était de la résine au départ. Hein. Enfin, le livre était en résine, le reste était en, je ne dirais pas, mais le livre lui-même était en résine. Et donc, petit à petit, la résine commençait à fondre. Et de la résine tombait sur les acteurs...
Brûlante,
enfin, en fusion presque encore. Et qui ne disait rien au début, parce qu'aucun des acteurs ne voulait prendre la responsabilité d'arrêter le spectacle. Arrêter le spectacle, c'est comme tuer quelqu'un, c'est une horreur. Enfin, on ne fait ça que quand c'est irrespirable, quand on ne peut plus continuer, que tout va mal. Mais voilà. Et donc, les pauvres, on m'a raconté, moi je n'ai pas vu, mais il leur tombait des morceaux de résine bouillante sur les épaules ou sur la tête. Sur le chapeau et tout ça, ils avaient pas mal. Ils ne se brûlaient pas. Ils ne se sont pas brûlés, rassurez-vous. Mais quand même. Et ils auraient pu brûler comme des torches. Enfin. Et personne n'arrêtait. Et ce n'est que quand le régisseur a vu qu'il y avait des plaques entières de résine en fusion qui commençaient à tomber et à abîmer les autres livres de dessous, qui étaient eux aussi en résine, qu'alors il a dit, on baisse le rideau. Ils ont baissé le rideau, ils ont fait sortir la salle, etc. À une heure, donc qui n'était pas normal. Et on a repris après le spectacle et le spectacle a continué, a eu lieu.
Vous avez pensé que c'était parce que vous n'étiez pas là.
Exactement. Oui. Voilà. Pourquoi c'est un mauvais souvenir ? C'est un mauvais souvenir en soi. On arrête un spectacle, c'est jamais bien. Mais je me suis dit, voilà, le seul jour où je n'y suis pas, j'ai été puni. C'est normal. Enfin, voilà. Ça, c'est un très mauvais souvenir. Le meilleur, je crois que c'est le grand macabre, le meilleur. C'est le grand macabre, le meilleur, je crois. Ou peut-être le... Non, je crois que c'est le grand macabre. Parce que j'avais... Dont vous parliez tout à l'heure. Parce que j'avais jamais monté d'opéra et...
Le décor représentait la salle de l'opéra, et il y avait une trouée sur quel grand magasin
Sur la rue Magador et sur les Galeries Lafayette.
Les Galeries Lafayette, c'est ça, oui.
C'est-à-dire que les Marx Brothers, il y avait des Marx Brothers qui faisaient exploser le fond de l'opéra, comme une nuit à l'opéra. Et puis tout le monde, il y avait une hémorragie, et tout le monde, les régisseurs, les gens de l'administration, les chanteurs, tout le monde s'en allait dans la rue, comme ça. Et il y avait une toile hyper-réaliste qui représentait les Galeries Lafayette. Bref. Et donc, dans ce Grand Macabre, je fais toutes les folies qu'il faut. Par exemple, le Grand Macabre commençait par le fait qu'un chef d'orchestre arrivait. Comme vous le savez, c'est un rituel à l'opéra. Le chef d'orchestre arrive, après l'orchestre, salue le public, tout le monde l'applaudit. Il salue, il se retourne, un, deux, et il commence à battre sa mesure. Et là, au début du Grand Macabre, le chef d'orchestre arrive, salue, tout le monde l'applaudit. Arrive un autre chef d'orchestre avec une baguette qui lui rentre la baguette dans la gorge. Et le premier s'effondre mort. Les gens hurlaient dans la salle au début du spectacle. Enfin, un meurtre en direct. Surtout que c'était un moment où il y avait beaucoup, beaucoup de troubles à l'Opéra de Paris. Bernard Lefort venait d'être nommé, il y avait eu des problèmes, il y avait eu des bagarres. Enfin, ça défrayait la chronique vraiment. Donc les gens étaient sûrs que c'était un scandale terrible auquel ils venaient d'assister. Peut-être même un meurtre, sûrement. Le deuxième, l'assassin, salue. Évidemment, personne ne l'applaudit. C'était le vrai chef d'orchestre. Le premier était un figurant. Ça a commencé comme ça. Et tout le long, il se passait des choses un peu folles comme ça. Et donc, je voyais les gens fous de rage. Il y a même eu, certains fous de rage, d'autres heureux, je crois. Il y a même eu des œufs qui ont été jetés sur la... Ça m'a toujours fasciné. Enfin, parce que c'était une soirée très mondaine, la première.
C'était la première.
La première, c'était très mondain. Et toutes les dames...
D'où sortent les œufs dans les poches, hein, disons.
Mais voilà, c'est-à-dire que...
D'où sortent les œufs.
Comment c'est possible? Des gens se pomponnent, se parfument, les dames étaient très bien habillées. Mais elles disent, chérie, n'oublie pas les œufs dans le sac. Enfin, j'arrive pas à l'imaginer, mais enfin bon, elles sont venues avec des œufs. Enfin, voilà. Et donc le gars qui s'occupait du son a reçu des œufs sur sa console. Enfin bon, bref. Voilà. Et alors, à la fin de ce spectacle, les chanteurs sont applaudis, l'un, puis l'autre. Puis l'autre, puis l'autre, et puis à la fin, la chanteuse principale se retourne, va en coulisses me chercher. Et j'entends, ben j'étais Johnny Hallyday ou les Rolling Stones à Bercy, enfin tout d'un coup, les hurlements, si vous y étiez, vous le savez, les hurlements de joie, la salle debout, enfin, j'avais jamais vécu ça de ma vie. Et encore
le seul
moins,
pas content, c'était Ligeti.
Oui, il était parti, Ligeti, il avait quitté la salle. Et donc c'était un triomphe de chez triomphe. Enfin, j'avais jamais vécu ça. Et surtout, c'était ma première mise en scène d'opéra. Et les gens de musique, les gens d'opéra sont bien plus, vous le savez, sont bien plus fans, si j'ose dire, que les gens de théâtre. Les gens de théâtre sont toujours critiques, même s'ils aiment, moyennement. Ils disent, oui, j'avais beaucoup aimé, mais tu vois, je pense que, enfin, il y a toujours un truc qui va pas. Et puis même, ils ne sont pas portés à l'admiration, voire à l'idolâtrie. Comme souvent les gens d'opéra. Mais les gens d'opéra, quand ils aiment, ils sont capables d'applaudir pendant 25 minutes. Et c'est à peu près ce qui s'était passé.
Vous n'auriez pas pu faire ça avec la Tosca, ou un opéra classique, je pense.
Sans doute pas. Quoique j'ai fait des choses comme ça avec le Ring. Avec le Ring, j'ai fait ça.
Le Ring, on peut. Mais les vrais fans d'opéra ne laissent pas toucher à Verdi et
Verdi,
Puccini.
Verdi, je pense que c'est trop proche du bel conto et de la tradition
italienne.
Surtout
Puccini.
Ou Puccini encore plus, oui.
Un jour, vous nous ferez une Tosca renversée comme ça pour qu'on voit ce qui se passe.
Oui. Mais j'ai monté le bal masqué, par exemple. Ça a été très décrit.
Ça, c'est plus facile, ça. Moi, je parle de Tosca.
Hein. Oui, d'accord.
Bon, alors, on va passer à votre...
Je vais monter à la rentrée à l'Opéra de Metz. Pas à Paris, mais je vais monter la Flûte enchantée. Je pense que là, il y aura des problèmes.
Non.
Non ?
Oh non.
Peut-être pas.
Elle a été tellement déjà...
C'est vrai, elle a été malmenée déjà.
Elle a été... Mmh. Non, pas malmenée, elle a été réinterprétée de toutes les manières possibles. Comment vous allez faire les animaux, au fait, tiens ?
C'est des hommes.
Pas d'accord, des hommes comment ?
Des hommes... Ce que Chouraki, dans sa traduction de la Bible, a traduit par l'homme, c'est-à-dire le glébeux. C'est des hommes pleins de terre qui marchent comme ça, dans la forêt, dans rien. Voilà, c'est les animaux.
C'est eux qui sont charmés par la flûte enchantée. Mmh. Ils sortent de terre.
Mais oui, parce que moi, j'aime pas qu'à l'opéra, enfin, qu'au théâtre, sur une scène, on fasse Bambi. Enfin, ça m'énerve. Bambi m'énerve, quoi. Voilà.
Vous l'avez vu ?
Bambi ?
Oui.
Ah oui, je l'ai vu, oui.
Oui, vous avez pleuré.
J'ai pleuré, mais je lui en veux de m'avoir fait pleurer. Oui.
Voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors maintenant, comment êtes-vous professeur ? Qu'est-ce que vous enseignez ?
Moi, je pense, je vais dire une banalité peut-être, mais je pense qu'un professeur enseigne ce qu'il ne sait pas qu'il enseigne. C'est-à-dire que, bien sûr, j'enseigne l'art dramatique, je dirige des acteurs, enfin, et les profs de maths, eux, ils enseignent les mathématiques, le prof de géographie, de la géographie. Mais je pense que le prof de géographie, le prof de maths, ou moi-même, nous enseignons beaucoup de choses que nous ne savons pas. Et c'est ça qui se transmet peut-être plus encore que ce qu'on croit qu'on transmet. Moi, il me semble que j'enseigne le mesguiche, si j'ose dire. Le mesguiche. C'est des cours de mesguiche et je donne ces cours-là. Enfin, je vois pas ce que je fais d'autre. Bien sûr, ce sont des cours de théâtre. Bien sûr, ce sont des cours de direction d'acteurs. Bien sûr, c'est une façon de déplier du sens, de donner quelques trucs aussi parfois, de glorifier quelqu'un, de le faire annexer des territoires qu'il ne savait pas qu'il pouvait annexer. Un jeune acteur, etc. Et on pourrait faire
une liste. Vous avez été très jeune nommé professeur au conservatoire d'art dramatique.
J'ai commencé à être professeur bien plus jeune encore. En fait, je sortais comme élève du conservatoire et j'ai ouvert un cours. Oui. Donc j'avais 21 ans.
Et quand vous êtes devenu directeur du conservatoire, qu'est-ce que vous avez changé ?
Oh là là, beaucoup de choses. Il y avait, quand j'étais élève moi-même, donc il y a très longtemps, il y avait que les élèves étaient mélangés. Que les premières années, deuxième année et troisième année, le cursus est de 3 ans. Et les premières, deuxième et troisième années étaient mélangées. Il n'y avait pas de première, deuxième ou troisième année. Il y avait des élèves du conservatoire. Je trouve ça formidable. Ça me paraît la moindre des choses. Autant en éducation nationale, si j'ose dire, je peux comprendre, ou dans des matières autres que les matières artistiques, je peux comprendre qu'il y ait des degrés, qu'il y ait des niveaux, que la sixième ne soit pas la terminale. Enfin, autant en art, je ne vois pas où est la différence. Il y a des premières années bien meilleures que des troisièmes années. Quand Charles Dullin engage des acteurs, il ne les classe pas en « toi, tu as été engagé en telle année, toi, en telle année, tu viens après, etc. » Non, ce sont ses acteurs, c'est sa troupe. Donc j'ai renoué avec cette tradition ancienne qui est de mélanger les promotions. Ça a été la première chose. La deuxième chose, je me souviens par exemple au ministère de la Culture, il m'avait fait passer, quand j'ai été nommé pourtant déjà, mais hein, une sorte d'examen, il y avait toute une rangée de fonctionnaires du ministère de la Culture, et ils me disaient « Mais alors, qu'est-ce que vous voulez changer, Mesguiche ? Par exemple, vous écrivez dans votre projet qu'il y aura une réforme du concours d'entrée. Quelle est cette réforme ? Du jury. Alors, c'est quoi ? Ce que vous allez faire ?» Et je dis « Ben, première chose, plus personne du ministère dans le jury. » Alors, c'était comme dans les films. Il y a eu un blanc, ils ont eu l'encéphalogramme plat pendant 4-5 secondes, puis ils se sont regardés lentement, pas sûrs chacun d'avoir entendu exactement ce qui venait d'être dit. Et finalement, donc, c'était un silence. J'avais un collaborateur qui m'avait accompagné, qui était dans un coin. Moi, j'étais seul en face du jury, si j'ose dire. Mais lui, il était dans un coin et il était mort de rire. Il n'en pouvait plus. Enfin, il a failli exploser de rire. Donc c'était comme dans un film.
C'était les inspecteurs du théâtre ?
Il y avait l'inspecteur, il y avait le directeur des théâtres, il y avait tout le monde, enfin tous les gens qui étaient là. Et puis, justement, un inspecteur a secouer la chape de plomb qui venait de tomber en disant mais pourquoi pas, après tout, d'ailleurs en danse on n'y a pas de gens du ministère, je crois. Il a cherché un truc qui existait déjà et très bien, c'est passé comme ça.
Parce que les inspecteurs du théâtre sont des gens très bien en général.
Tous.
Peut-être donc, pas tous, mais non, c'est une catégorie de fonctionnaires.
Non, mais je veux pas, ça n'a pas de sens de dire oui, non. Oui, oui, bien sûr.
Il y en a qui sont capables d'accepter des réformes comme ça.
Oui, ben voilà, celui-là l'a accepté. Enfin, c'est lui le premier qui a dit oui, pourquoi pas. Non, mais mon critère était très simple. Ne peut juger un acteur que quelqu'un qui a déjà eu le trac dans sa vie. Personne au ministère n'a eu le trac, donc personne n'a le droit de juger un acteur. Enfin, voilà, tout, c'est simple. Il faut savoir ce que c'est, quoi. Voilà, première chose. Et puis alors, parmi les réformes, il y a eu des cours qui n'existaient pas. Par exemple, il y avait des cours d'anglais, mais c'était des cours d'anglais.
On apprenait la langue anglaise.
Pour que les acteurs sachent un peu l'anglais, on ne sait jamais. L'anglais est une langue tellement importante. Un metteur en scène américain peut demander de vouloir les engager, etc. Bon, pourquoi pas. Mais moi, je me disais, mais les acteurs, ils n'apprennent pas l'anglais comme des étudiants en anglais. Les acteurs, ça joue. Donc il faut qu'ils jouent du Shakespeare, du Pinter ou du Tennessee Williams. Et à la fin de leur spectacle, ils savent de l'anglais. Mais on ne va pas apprendre l'anglais. De la même manière en histoire du théâtre. Histoire du théâtre, c'est bien pour des étudiants en théâtre, à l'université. Mais nos acteurs à nous, ils jouent. Donc ils vont jouer un spectacle dont les personnages seront Meyerhold, Stanislavski, Brecht, Artaud et, ah, autres, oui. et autres Diderot, je vous assure qu'au bout de 2 mois de répétition et de quelques représentations, ils peuvent très très bien décrire les théories de Brecht, Artaud, Meyerhold ou Stanislavski. Ce n'est pas la peine de le leur apprendre et qu'ils l'écrivent sur un papier. Ils vont jouer ça et ils le savent. Et c'est ce qui se passe. Donc tout ce qui est enseignement, savoir, s'apprend, sauf les cours de philosophie que vous connaissez, s'apprend en théâtre, en faisant du théâtre. Ça, c'est une réforme. Une autre réforme a été d'inventer justement des cours dits de philosophie. Philosophie est un grand mot, mais des cours avec dans tous
donc
les psychanalystes.
Vous appelez ça pensée du théâtre.
Pensée du théâtre, oui. C'est-à-dire des psychanalystes, des écrivains, des philosophes, enfin des professeurs qui viennent parler en général du théâtre. Depuis donc des territoires qui ne sont pas les leurs, ce ne sont pas des praticiens de théâtre. Il y a aussi des praticiens de théâtre. On a fait venir Pierre Debauche, Roger Planchon peu avant qu'il meure, et quelques autres. Mais bon, des gens qui ne font pas de théâtre, mais qui parlent du théâtre. Parce qu'après tout, le mot théâtre est un mot énorme. Bien sûr qu'il concerne la corporation théâtre, metteur en scène, acteur et autres auteurs ou décorateurs. Mais il se dit dans mille et mille autres lieux. On parle du théâtre des opérations à l'armée, on parle du théâtre de l'autre scène en psychanalyse. Enfin, le théâtre, le fait que s'ouvre une scène, est bien plus vaste que l'activité dite théâtrale. Et donc, je voulais que ce mot que d'autres nous empruntent, je voulais qu'ils nous le rendent, en quelque sorte, qu'ils nous disent, voilà ce qu'on peut dire du théâtre, voilà ce que c'est que le théâtre, etc. Et qu'ils le disent à des élèves, des jeunes élèves du conservatoire, qui ne sont pas tous prêts à ça. Loin de là.
Oh non.
Loin de là, bien sûr. Certains n'ont pas le certificat d'études, la plupart pensent plutôt à se faire engager dans Plus belle la vie que de faire de la philosophie. Mais ça n'empêche pas que 3 ans à ce régime, on est un peu moins con au bout de 3 ans, voilà, pour le dire très, très clairement. C'est-à-dire que finalement, il y a une accoutumance. Et moi, je vois maintenant, je ne dis pas que tout le monde est devenu un intellectuel hors pair parmi les élèves du conservatoire, loin de là. Mais ils n'ont plus peur des textes, ils n'ont plus peur des grands mots. Ils ont entendu des gens parler. On a fait venir des gens formidables, par exemple Catherine Clément, par exemple Hélène Cixous, par exemple Jean-Luc Nancy, par exemple Régis Debray. Enfin,
c'est un public très difficile.
Alors c'est un public difficile parce que c'est
très,
un public
très difficile.
Qui n'est pas scolarisé facilement.
Voilà.
Donc il ne tient pas en place, il n'a pas l'habitude, il n'est pas rompu au fait qu'il faut passer la journée assis à écrire des trucs.
Il y en a qui savent tout et d'autres qui savent presque
exactement.
Rien.
Et
il y a une sorte de déhiscence entre eux qui
mais
est
parce
très
qu'il y a,
difficile.
Il y a à la fois des sixièmes et des bacs plus 18, enfin, donc c'est très compliqué de parler d'une seule voix. Mais ça, c'est le théâtre même qui est comme ça. Dans une distribution, c'est comme ça.
Et quand vous enseignez au Mexique, comment ça se passe? Vous enseignez à Mexico?
Non, j'étais à Monterrey.
Alors, j'ai vu ça, je connais Monterrey, c'est une des villes les plus dangereuses du monde.
Je sais.
Comment ça se passe?
Je ne me suis pas fait agresser, je ne sais pas. Non, mais ça se passe très bien, enfin ça s'est passé très bien, c'est il y a longtemps maintenant Monterrey, mais ça, au fond ça se passe comme à Paris. C'est jamais la même chose, bien entendu. Mais moi je fais la même chose, c'est-à-dire à peu près la même chose. Je ne vais pas faire le Mexicain, c'est pas ça qu'ils attendent de moi. Ils attendent de moi que je fasse le français au Mexique. De la même manière en Chine, quand j'ai fait des masterclass à Pékin. À Pékin, moi, j'étais très étonné parce que le directeur de l'Académie centrale, ça s'appelle comme ça, me dit « Monsieur Mesquich, quels seraient vos horaires pour le stage que vous allez faire ?» Et pour l'atelier que vous allez faire. Et
moi, première chose qu'il vous demande.
Oui. Et moi, je lui dis, ben, pour l'impressionner, pour montrer que les Français, c'est pas n'importe qui, je lui dis... 9h, 9h. 9h du matin jusqu'à 9h du soir. On s'arrête une demi-heure pour manger. Et je me suis dit, voilà, là je lui en impose. Hein. Ça ne l'a pas impressionné du tout. Il écrit ça sur un bout de papier, très bien. Et le lendemain, j'arrive à 9h et je vois tous les étudiants déjà en sueur qui avaient commencé à 7h. Et quand je partais à 9h, je les voyais rester. Et le lendemain, je disais, ils sont restés jusqu'à quelle heure? Jusqu'à minuit, 1h du matin. Tous les jours. Donc je me sentais un gros feignant d'avoir dit 9h. Ça, c'est une vraie différence avec la France. Parce que en 15 jours, j'ai monté un spectacle de 3h30. En France, il m'aurait fallu 6 mois pour le faire. C'est ça la différence avec la Chine. Et le matin, il y avait quelque chose d'étonnant le matin. Parce que, donc coupable, je venais plus tôt le matin. Je ne commençais qu'à 9h, mais je venais quand même avant.
Donc
pour
vous
les
aussi,
voir.
Vous avez travaillé plus.
Moi aussi, évidemment, à cause d'eux. Et le matin, vraiment, au tout début, à 7h, ils étaient tous en ligne, les élèves, et leur professeur principal, qui est un homme délicieux et génial, que j'aime beaucoup, M. Liu, ils s'appellent tous Liu, mais lui aussi il s'appelle Liu, parlait aux élèves. Ils ne savaient pas que j'étais là. Et j'étais là avec l'interprète. Et ils leur parlent en chinois, et les élèves baissaient la tête un peu, et puis opinaient du chef. Comme ça, oui, bien sûr, bien sûr. Alors je demande à mon interprète, je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de leur dire ? Il est en train de leur dire que l'honorable étranger est venu de très très loin pour vous faire travailler, il faut que vous ne le déceviez pas. Tous les matins, il leur disait ça pendant un quart d'heure, 20 minutes. Alors, au début, moi, je trouvais ça ridicule. Je me disais, mais enfin, c'est vraiment le maoïsme, quoi. Enfin, alors, tous les matins, on te fait de la morale comme ça, et puis le pauvre gamin fait oui. Tous les matins, la même chose, hein, à peu près les mêmes mots. Simplement, c'est génial de faire ça. Parce que, au bout d'un moment, c'était vrai. Tout le monde bandait toute son activité, toute sa force pour se dépasser. Et on a pu vraiment, comme le dit la légende, Yu Gong déplaça les montagnes, on a pu déplacer des montagnes. Grâce à ces choses-là...
C'était quoi le système de sanctions s'il ne le faisait pas ?
Je pense que... J'en sais rien, je ne peux pas dire. Peut-être que c'était, fascisant, ou je ne sais pas. Je ne crois pas.
Non, je ne sais pas, je vous demande.
Mais je sais
ça
pas,
ne peut marcher que s'il y a une pression formidable.
Mais je crois que la pression, c'est que tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord pour faire ça. Si l'un ne l'avait pas fait, il aurait été regardé par tous les autres comme la brebis galeuse. Je crois que ça suffisait comme sanction. Je ne crois pas qu'on... Peut-être qu'on renvoie des gens au bout d'un moment quand ils font vraiment les idiots. Mais non, je ne crois pas qu'il y avait de sanction. Enfin, je n'ai pas vu ça, en tout cas. J'ai vu le contraire, même en Chine. Hein. J'ai vu une délicatesse. Enfin, il y a aussi de la brutalité, hein. Il y avait aussi ça, mais pas dans l'école en tout cas. Mais il y avait une délicatesse incroyable. Ces gens avaient entre 18 et 22 ans, et je n'ai jamais ouvert une porte. C'est-à-dire partout où j'allais, immédiatement, quelqu'un, un jeune garçon ou une jeune fille, m'ouvrait la porte pour que je passe. Au début, je me suis dit, c'est parce que je suis vieux. Ça m'a énervé. Ensuite, je me suis dit, c'est parce que je suis français et qu'ils veulent m'être poli envers un français. Ou bien parce que je suis le professeur. Mais
parce
quand
que
je les ai vus, comment ?
C'est parce que vous étiez professeur.
Oui, j'étais là au-dessus, j'étais le professeur. Mais quand je les ai vus le faire entre eux, entre gens de 18 ans qui s'ouvrent la porte en disant je t'en prie, etc. Moi, j'étais scié parce qu'au conservatoire de Paris.
Oui, c'est pas pareil, ça.
On prend la porte dans la gueule, enfin voilà. Donc non, je trouve qu'il y a quelque chose de différent, oui.
Ça, c'est, je trouve que vous devriez instituer cette coutume à l'intérieur de votre conservatoire. Ça serait une formidable idée.
Mais ça change. Ça change un peu le conservatoire de Paris, je crois, j'espère.
Alors, il nous reste encore un petit peu de temps. Vous êtes aussi un acteur de cinéma. Bon, un grand acteur de cinéma, vous avez joué des rôles incroyables. Moi, je vous ai préféré, je dois le dire, vous le savez d'ailleurs, je vous ai préféré dans le rôle de Bonaparte puis Napoléon. J'ai été horriblement déçu d'apprendre que pour Napoléon, vous aviez des machins faux. Là.
Ça... Maintenant, je pourrais jouer sans ça, mais à l'époque, j'étais obligé.
Oui, vous pourriez jouer Bonaparte, ça c'est un peu compliqué. D'ailleurs, Berlioz et Bonaparte sont vos rôles, je dirais pas favoris, parce que je suis sûr que vous ne les aimez pas spécialement. Les aimez-vous ?
Moi, j'aime tout ce que je fais, hein, vraiment. C'est très rare les choses que j'ai faites que je n'ai pas aimées. Ça ne veut pas dire qu'elles soient bonnes.
Mais alors, mauvais souvenir, bon souvenir ?
Mauvais souvenir, bon souvenir.
Je
les ai même presque oubliés, les mauvais. Vraiment, sincèrement. Je sais que j'ai fait une ou deux choses à la télé ou au cinéma dont j'ai pu penser que ce serait bien, sinon j'aurais jamais signé. Hein. J'ai cette chance, c'est une chance énorme, hein, de ne faire que ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que je ne suis pas tenu pour payer mon loyer ou je ne sais quoi, d'accepter des choses dégradantes que je suis obligé de faire parce que je ne peux pas faire autrement. J'ai jamais eu cette malchance. C'est donc une très grande chance dans la vie. Et donc, chaque fois que j'ai fait quelque chose, je l'ai fait parce que j'ai pensé que ce serait formidable. Et puis, de temps en temps, c'est pas du tout formidable. La plupart du temps, je trouve que c'est bien. Je suis très content d'avoir fait ça. Mais il est arrivé une ou deux fois ou plus que je ne sois pas content à l'arrivée. Alors voilà, il y a eu une télé au moins que j'aurais jamais dû faire, je pense, qui était débile, une télévision très longue comme ça, qui était vraiment lamentable. Bon, très bien, mais je m'en suis rendu compte en cours de route, mais trop tard, j'avais signé. Un film aussi. Enfin, en même temps, non, ce film, c'était rigolo de l'avoir fait, mais bon, c'était pas bon. Voilà. Et puis, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. Alors, Napoléon Berlioz, oui, non, j'aime Berlioz. J'aime beaucoup Berlioz. J'aime un peu moins Napoléon. Mais je n'étais pas sûr en plus, parce que je dis ça de manière politique. Politiquement, j'aime pas beaucoup le bonapartisme de Napoléon Bonaparte, si j'ose dire. Mais le bonhomme, il est passionnant, il est fascinant, évidemment.
C'est-à-dire que vous le quittez à un moment où il n'est pas encore devenu l'ogre. Autant que je me souvienne.
C'est au moment où il quitte, où il répudie Joséphine.
Oui, on n'est pas encore dans le moment où il recrute des enfants soldats.
Non, pas encore, je pense, oui, effectivement. Mais en même temps, je l'adore, Napoléon. Non, j'aime beaucoup. Mais ça dépend ce qu'on appelle aimer ou pas aimer. Comme metteur en scène, je fais attention au texte.
Non, là, c'est comme acteur.
Non, je sais, mais c'est pour faire la différence. Et donc, jamais je ne mettrai Napoléon dans mon répertoire de metteur en scène. Jamais. Si on me dit, il y a une pièce sur Napoléon formidable, je ne la monte pas, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Comme acteur, je trouve ça passionnant de jouer Napoléon. Voilà. Donc j'étais heureux de jouer Napoléon à la télé. Mais ce n'est pas pareil. Vous voyez, il n'y a pas le même investissement, il n'y a pas la même responsabilité, me semble-t-il.
Comme acteur de théâtre, vous avez joué Don Juan. C'était quelle expérience, ça? C'était en 2001.
D'abord, ça faisait 15 ans que je n'avais pas joué au théâtre, quand j'ai joué Don Juan. Et c'était d'une difficulté folle pour moi parce que je m'étais rouillé. Je sais que c'est un peu comme le vélo ou la natation, on n'oublie pas, mais quand même on oublie un peu. J'avais beau avoir dirigé entre-temps très souvent des acteurs, mais j'étais pas moi-même, monté sur les planches, je suis fumeur, tout d'un coup il fallait du souffle pour faire cette tirade, pour faire cette chose, il fallait se dépêcher pour s'habiller entre ces deux scènes. Je me dis, mais quoi, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais un peu rouillé, quoi, premièrement. Et deuxièmement, j'étais encore terriblement metteur en scène. Je parle des premières représentations. Après, je pense que ça a été vraiment formidable et je me suis régalé. Je pense même que j'étais plutôt bien. Mais au début, j'étais pas bon du tout. Parce que au début, je regardais tout. Je voyais un projecteur, le numéro 24, qui s'est pas allumé. Putain, mais qu'est-ce qu'il attend pour envoyer le son? Enfin, tout en jouant. Et ça, c'est pas bon pour jouer, hein. Voilà, et je regardais les autres, je donnais des notes aux acteurs. Je dis, alors tu vois, quand tu as fait ça, mais comment tu m'as regardé à ce point-là, mais là, tu jouais pas? Si, je jouais, mais enfin, voilà. Et donc, j'étais.
Donc vous jouiez pas.
Je jouais presque pas, oui. Voilà. Et puis surtout, j'avais devant moi ou à côté de moi un acteur génial qui était Christian Heck et qui jouait Sganarelle. Et il m'arrivait même d'avoir des fous rires, comme si j'étais un spectateur, parce qu'en plus, Christian invente sans arrêt. Enfin, c'est un acteur prodigieux. Pour moi, il est un des plus grands acteurs comiques qui ait jamais existé. Pas simplement d'aujourd'hui, qui ait jamais existé. Il est à la fois De Funès, Charlie Chaplin. Enfin, il fait ce qu'il veut. Il a un corps en caoutchouc. Enfin, il est génial. Et on peut le voir de temps en temps à la Comédie Française, là, en ce moment, pour vérifier ce que je dis. Mais il est vraiment génial. Et donc, il jouait Sganarelle. Et il m'arrivait de le regarder et de ne plus jouer, enfin de le regarder et de rire simplement. Voilà. Et alors, évidemment, le public se rendait compte que je riais, moi Daniel et non pas Don Juan, donc ils applaudissaient. Enfin, ça foutait en l'air un peu le spectacle, quoi. Voilà. Mais bon, ça c'était vraiment les deux, trois premiers jours. Après, je crois que j'ai joué Don Juan. Et puis, le DVD de cette mise en scène est le DVD qui s'est le plus vendu dans l'histoire. Dans les lycées, c'est-à-dire que je reçois de temps en temps des témoignages d'admiration d'une toute jeune fille qui a 17 ans ou 18 ans qui me dit « Oh, je vous ai vu dans Don Juan, vous êtes génial !» Mais comment c'est possible? Enfin, elle devait donc avoir 12 ans ou 11 ans et elle s'en souvient encore. Non, c'est parce qu'elle a vu le DVD, voilà. Le DVD s'étudie.
J'ai mangé beaucoup de temps. Je vais quand même signaler que dans cette édition-là de l'Éternel éphémère, qui est la deuxième édition, et qui est chez Verdier, la première était, je crois, au Seuil. Hein. Il y a une postface de Jacques Derrida, une magnifique postface, comme tout ce que j'ai. Mais elle est particulièrement belle. Je voudrais qu'on commente deux choses. Même l'agneau, parce que le titre d'un des paragraphes est Même l'agneau, et puis que vous ayez la bonté de lire la dernière phrase et d'y répondre. Alors, d'abord même l'agneau.
Même l'agneau, c'est comme ça. Il n'y a pas à lire, là.
Oui. Non, à lire, il y a juste la dernière phrase.
Même l'agneau, c'est parce que j'entendais beaucoup dire autour de moi que l'alliance juive, la religion, comme on dit, mais le mot religion est un mot chrétien, et la pensée juive, la tradition juive, la loi juive, comme vous voulez, mais enfin, en tout cas, on ne dit pas religion normalement, était le premier acte de civilisation, parce que pour la première fois, quelqu'un dit non au sacrifice humain. C'est Abraham qui dit « La loi, c'est de tuer son premier-né, et je dis non. » Enfin, il dit « Dieu m'a dit que non, mais enfin, je dis non. » Et il ne le fait pas. Et alors donc, c'est formidable parce que il part avec son fils Isaac sur la montagne, il installe Isaac, et avant d'installer Isaac, finalement, il met une bête cornue. Alors, il y a écrit agneau. Catherine me faisait remarquer qu'en fait, un agneau n'a pas de cornes. Et donc, c'est plutôt un bélier d'ailleurs, ou un bouc. En tout cas, il y a une bête cornue qui est tuée à la place d'Isaac. Donc, on a sauvé un homme. On n'a pas instauré une alliance sur du sang humain. Acte de civilisation suprême, premier acte de grande civilisation. Jusqu'à présent, c'était le culte de Baal, c'était d'autres traditions où, qui vivaient sur le concept même du sacrifice humain. Et je disais, moi, que le théâtre était encore plus civilisé que cette civilisation, parce que au théâtre, si on avait joué une telle chose, à la fin, Abraham salue, il est sauf, bien sûr, ça c'est normal, Isaac salue, il n'est pas mort, et l'agneau ou le bélier se lève et salue aussi, parce qu'il n'est pas mort. Au théâtre, on n'a tué absolument personne. Parce que, civilisation peut-être, mais on a quand même tué un animal dans l'acte de civilisation d'Abraham. Alors que nous, au théâtre, on est la non-violence même. Il y a eu quelques années, est-ce vrai, est-ce une légende, je ne sais pas, je veux croire que c'est vrai. Il y a eu quelques années, une enquête qui a été faite pour savoir le nombre d'acteurs assassins, enfin, ou plutôt, par catégorie professionnelle, les tendances à l'assassinat. Alors, je ne sais pas, moi, les fleuristes tuent à 3%, enfin, voilà. Et les garagistes à 2%, enfin, bon. Et les acteurs, 0%. Un acteur ne tue jamais. Un acteur ne tue pas. Il se suicide, mais il ne tue pas. C'est intéressant. Nous sommes la non-violence même. Le théâtre, c'est la non-violence même. Eh bien, je trouvais que c'était formidable que l'agneau, donc, j'ai dit agneau à l'époque, j'ai eu tort, que l'agneau se relève et salue.
Voilà. Mais c'est peut-être l'agneau de la Pâque. Vous êtes peut-être glissé du bélier à l'agneau pascal.
Ah, c'est peut-être inconsciemment encore un acte de christianisme de ma part.
Oui, c'est ce que je pensais en vous entendant parler de la christianisation des juifs d'Algérie. Alors, la dernière phrase de ce texte de Derrida, je vais la lire moi, puis vous y répondre rapidement. Qu'est-ce qu'un acte de foi dans le théâtre? Pourquoi faut-il croire au théâtre? Il le faut. Pourquoi le faut-il? Je ne l'ai pas lu si bien que vous l'auriez dit, mais enfin...
Non, mais surtout, c'est la phrase peut-être la plus difficile de tout ce texte.
Bah oui, c'est bien pour ça que je
l'adore. Je ne sais pas bien la commenter. Je crois la comprendre, je crois en goûter même la saveur et le vertige, enfin. Et en même temps, je ne sais pas bien la commenter. Tout est dans le mot croire, hein. Il faut croire au théâtre. Pourquoi le faut-il?
Est-ce que vous n'avez pas de répondre avec cette histoire de non-violence? Moi, je crois que vous venez de répondre, que c'est la réponse que Jacques Derrida aurait peut-être donnée s'il avait été présent parmi nous.
Peut-être. Jacques Derrida a dit une chose un jour, je l'avais fait venir deux, trois fois au théâtre que je dirigeais à l'époque à Lille, qui s'appelait La Métaphore, et Jacques Derrida avait dit une chose magnifique. C'était sur les rapports philosophie et théâtre. Parce que vous le savez, la philosophie et le théâtre étaient une seule et même chose jusqu'à Platon. Enfin, je vais un peu trop vite en disant ça comme ça, mais bon, on pourrait le dire comme ça. Et c'est Platon, le premier, qui a dit « Bon, maintenant, ça suffit, je jette toutes mes tablettes de théâtre. » Il était dramaturge, hein, il écrivait du théâtre. Au fond, il a continué, d'ailleurs, parce que les dialogues platoniciens, c'est des dialogues, enfin, mais bon.
Mais c'est pas du théâtre.
Mais c'est pas du théâtre. Bref, et c'est lui qui, le premier, a dit « Attendez, il y a une rigueur de la philosophie, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec le mythe, avec le mythos, avec la fiction, etc., les légendes, enfin, bref. » Le théâtre fait partie des fantaisies, en quelque sorte, alors que nous sommes dans la rigueur de la pensée philosophique, etc. Moi et mon camarade Socrate. Et donc, c'est l'acte de fondation, en quelque sorte, de la philosophie occidentale. Je dis bien occidentale et même européenne, parce qu'en Amérique, ça n'a aucune valeur, ça, c'est plutôt analytique, et c'est presque des mathématiques, donc ça n'a aucune valeur. De Platon à Derrida, tout le monde s'en fout, ou presque, c'est de la littérature. Et dans d'autres civilisations, dans d'autres pays, en Chine par exemple, c'est très sympathique, mais c'est une façon de penser parmi d'autres. Mais nous avons l'impression, en Europe, que les Grecs et les Allemands, surtout eux, ont inventé une façon de penser rigoureuse, radicale, enfin, qui s'appelle la philosophie.
Ce qui n'est pas vrai, puisqu'en Inde, c'était bien fait depuis longtemps. Il y avait des logiciens,
oui,
philosophes
bien sûr,
en Inde.
Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est vraiment une idéologie locale, si j'ose dire. Mais idéologie locale qui n'arrête pas de se remettre en question et qui, donc, est quand même rigoureuse et de la philosophie. Bref. Le théâtre, donc, s'est séparé, à ce moment-là, de la philosophie. Mais moi, je pense que c'est une autre façon de faire de la philosophie. C'est moi qui le dis. Un vrai philosophe me regarderait en disant « Oui, d'accord, mais enfin bon, ça n'est quand même pas pareil. » Et il aurait sans doute raison. Pourtant, je pense que si on regarde l'histoire de la philosophie, qui, disons pour aller vite, qui irait de Héraclite ou je ne sais qui, jusqu'à, ou Parménide, jusqu'à Derrida, mettons, ou d'autres, en passant par Kant, Hegel et autres Spinoza, eh bien, il y a donc des jalons comme ça de la pensée. Mais si on regarde l'histoire du théâtre, qui va, disons pour aller vite, de Eschyle à Hélène Cixous, en passant par Shakespeare, Tchekhov ou Claudel, eh bien, je pense qu'il y a tout autant de pensées. Il n'y a pas moins de pensées chez Shakespeare que chez Spinoza. C'est donc une autre tradition de la pensée. Bref, Derrida, quand il était venu à la métaphore, avait terminé une de ses interventions éblouissantes comme d'habitude par « La philosophie a tout à apprendre au théâtre ». En jouant sur les mots, bien sûr, parce que le mot « théâtre » peut être pris de deux façons, il y a deux exceptions possibles. Ou bien le mot théâtre veut dire l'art du théâtre, ou bien il veut dire le bâtiment théâtre. Et le mot apprendre lui-même veut dire aussi bien enseigner que être enseigné. Et donc en fait, la philosophie a tout à apprendre au théâtre, ça peut aussi bien vouloir dire la philosophie est le maître et elle a tout à apprendre à cet élève qui est le théâtre, qui est au-dessous d'elle donc, mais de la même manière, c'est elle a tout à apprendre de cet art sublime qui est au-dessus d'elle et qui est le théâtre. La philosophie a tout à apprendre au théâtre, je pense que c'est vrai.
En laissant l'ambiguïté.
En laissant l'ambiguïté, bien sûr. Je pense que c'est vrai, en laissant l'ambiguïté.
Bonsoir. Comme au théâtre, vous jouez la comédie, vous dirigez des acteurs pour jouer la comédie. Est-ce que vous avez pourquoi vous avez la préférence pour le théâtre plutôt pour le cinéma, alors que c'est aussi jouer la comédie? Qu'est-ce que ça vous procure de plus au théâtre?
Je ne sais pas si ça peut se dire dans ces termes-là, qu'est-ce que ça procure de plus, parce que l'un des arts n'est pas plus ou moins que l'autre, hein, bien sûr. Mais ils sont, je crois, radicalement différents, même si on peut dire qu'on, dans les deux cas, on joue la comédie. Et d'ailleurs, des acteurs de théâtre font du cinéma, des acteurs de cinéma, ça c'est plus difficile pour eux, mais peuvent faire du théâtre, etc. Mais au fond, c'est quand même deux actes qui n'ont rien à voir. Pour aller vite, je vous dirai cette chose-là, mais je vais trop vite et je pense que ça ne suffira pas. Mais je le dis quand même. Au cinéma, on montre que quelque chose a lieu, que quelque chose a eu lieu. Alors c'est paradoxal, parce que le cinéma, il n'y a personne. C'est de la lumière sur du mur, c'est de la lumière sur un écran. Il n'y a rien au cinéma. Applaudir, par exemple, à la fin d'un film, c'est applaudir mentalement, parce qu'aucun des acteurs n'entend les applaudissements. Enfin, ça n'existe pas, c'est de la lumière. Mais, c'est un paradoxe donc, mais c'est vrai. Ça a été vrai. Sur la pellicule ou sur n'importe quel support, il a été enregistré quelque chose qui n'a pas pu ne pas avoir lieu. Si Alain Delon ou je ne sais pas qui se gratte la joue, c'est sur l'écran, c'est qu'il s'est gratté la joue un jour, on l'a filmé, mais il ne peut pas y avoir ça sur le film s'il ne s'était pas gratté la joue. Ça a eu lieu et on l'a capté, on l'a pris. C'est ça le cinéma. Le théâtre, voilà le paradoxe qui continue, c'est vrai. On peut toucher les acteurs, ils existent pour de bon. Enfin, il y a trois dimensions, il n'y en a pas que deux. Contrairement au cinéma. Mais pourtant, ça montre que quelque chose n'a pas lieu. Ce qui se passe sur la scène, c'est ce qui n'a pas lieu. On vient, quand on va au théâtre, voir quelque chose qui n'a pas lieu. Alors qu'on va au cinéma pour voir quelque chose qui a eu lieu. C'est très important cette différence. Par exemple, au cinéma, une chaise, c'est une chaise. Si vous voyez une chaise sur l'écran, eh bien c'est une chaise. Au théâtre, une chaise est le désir de chaise. Le manque de chaise, l'absence de chaise, le spectre de la chaise n'est pas une chaise. On dit un réalisateur de cinéma, on devrait dire un déréalisateur de théâtre. Le théâtre s'est fait pour déréaliser, pour ouvrir, pour déconstruire, comme on dit, enfin comme certains disent, la réalité, ce qu'on appelle la réalité, ça aussi c'est, tous les mots sont pipés, et puis on vous voit dans les interstices, on regarde dans les écarts, dans cette espèce de trou étrange dont d'illustres psychanalystes ont bien mieux parlé que moi, et on se penche devant un vertige, en quelque sorte. Essentiellement, j'entends. Après, il y a des pièces de théâtre minables où il n'y a aucun vertige, et puis des films sublimes, et tout ça, ça n'a rien à voir. Mais essentiellement, c'est cette différence-là. Et donc, quand je parle d'art dramatique, je parle plus volontiers de l'art au théâtre, de cet art au théâtre, parce que c'est là qu'à mon avis, essentiellement, il est en train de triompher. Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des choses magnifiques au cinéma. Mais le cinéma, dans la mesure où il s'accroche à cette réalité, à ce qui a eu lieu, il est plus ou moins condamné, quels que soient les codes, quels que soient, et je sais bien que le cinéma indien n'a rien à voir avec le cinéma américain, qu'il n'a rien à voir avec le cinéma européen, etc., ou allemand et espagnol, enfin voilà, très bien. Si, espagnol, il n'y en a pas, mais bon. Mais n'empêche que, malgré tout, le cinéma, toujours, est plus ou moins en train de flirter avec ce qu'on pourrait appeler très rapidement un naturalisme psychologique. Même le plus formel des films flirte avec le naturalisme psychologique. Le théâtre flirte plutôt avec l'écriture, avec le « c'était écrit », avec le livre. C'est donc des choses très différentes. Voilà pourquoi je parle plus volontiers de théâtre. Mais j'adore le cinéma.
D'autres questions?
Oui. Pourquoi avez-vous choisi le Mexique pour travailler ? Et quelle était votre expérience là-bas ?
Bon, c'est toujours le hasard, hein, ces choses-là, enfin, semi-hasard. J'avais un copain qui était directeur de l'Alliance française au Mexique, et je lui ai dit que j'adorais le Mexique, que j'aimerais bien y aller. Alors, pourquoi j'adorais le Mexique ? C'est que la première... à un moment de ma vie, j'ai été un peu amoureux d'une jeune Mexicaine, et elle m'a fait boire du mezcal, et évidemment, j'ai craqué. Et nous sommes allés jouer un spectacle au festival de Guanajuato. C'est là que j'ai vu d'ailleurs... à Cuernavaca, enfin pour moi c'était de la folie pure parce que je lisais Malcolm Lowry avec délectation et vertige. Et voilà que tout d'un coup je voyais la Grande Roue, je voyais la cantina où le consul buvait ses coups, etc. Et je me disais mais c'est génial ce pays. Et puis c'était à l'époque, je crois que c'est plus comme ça maintenant, mais à l'époque...
C'était quand ?
C'était il y a longtemps, c'est il y a au moins 25 ou 30 ans.
Oui, il n'y avait pas... Comme maintenant, 50 000 morts en quelques années.
Non, il n'y avait pas ça. Non, au contraire, c'était même assez... Enfin bon, on est en sécurité.
Je serais morte, moi. Je suis mexicaine.
Pardon ?
Je serais morte, je suis mexicaine, donc c'est pas si dangereux que ça. Hein.
Non, je pense que c'est pas si dangereux que ça, mais il y a quand même des moments...
Ça dépend. Les 50 000 morts sont attestés. Hein. Les 50 000 morts en 5 ans, je crois, quelque chose comme ça. Je crois que c'est un chiffre que je n'invente pas.
Non, j'ai aucune idée, mais bon.
Enfin, je ne sais pas. En tout cas, à l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, c'était pas le cas. Et puis moi, c'était un pays que je trouvais sublime parce que vous savez ce qu'a dit André Breton quand il est arrivé au Mexique. Il a dit cette phrase géniale. Il a dit et quand je pense que nous autres là-bas, pauvres Européens, nous croyons avoir inventé le surréalisme, parce que les Mexicains, ils sont fous naturellement. Ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Et un jour, par exemple, j'ouvre le journal et je vois deux pages de poèmes. Alors je me dis, c'est exceptionnel, c'est un numéro spécial. Enfin, non, tous les jours, dans le journal du matin, il y avait deux pages de poèmes. Quel est le journal en France qui pourrait faire deux pages de poèmes ? Enfin, vous vous rendez compte, ça n'existe pas, c'est impensable. Voilà, et en plus, le spectacle qu'on avait fait avait eu un très très grand succès. Enfin, voilà, donc j'étais très content, j'étais heureux au Mexique, et je trouvais ce pays magnifique, je le trouve toujours magnifique. Enfin, je n'y suis pas allé depuis longtemps, depuis au moins 10 ans, mais la dernière fois, je l'avais encore trouvé magnifique. Et donc voilà. Et quand on m'a demandé si je voulais faire un atelier là-bas, j'ai dit oui et j'y suis allé. Et je le regrette pas parce qu'en plus j'ai rapporté des quantités de Santiago.
Et ça a duré combien de temps ?
Ah non, pas si longtemps que ça. Chaque fois j'y vais. Chaque fois j'y suis allé, c'était peut-être entre une semaine et 3 semaines. Et le stage dont je vous parle, qui a été passionnant à Monterrey, c'était ça devait être 15 jours, un truc comme ça. Non, je ne suis pas un spécialiste du Mexique. Hein. Mais j'aime ça. Mais
c'était
j'aime ça.
Qui le directeur de l'Alliance française là-bas à l'époque ?
Beuclerc, Jean-Jacques Beuclerc.
En dehors du Mexique et de la Chine, quels sont les pays lointains où vous avez œuvré ?
Ça dépend. Là, on est allé l'année dernière avec les élèves du conservatoire, parce que j'ai inventé parmi les réformes, j'ai pas eu le temps de dire toutes les réformes, bien sûr, mais une petite nouveauté aussi. Nous allons en voyage, une petite délégation d'un professeur et de 5 élèves, voir les autres écoles du monde. Alors, l'année dernière, c'était en Australie, par exemple, à Perth, oui.
Ah oui, c'est
un peu partout. Voilà, on va voir comment ils font les autres, avec des fonds privés, enfin des fonds qui ne sont pas du conservatoire. J'ai trouvé des mécènes qui peuvent nous payer ces voyages.
C'est un groupe qui s'est constitué pour ça. Dans quel but ?
Le seul but, c'est que les élèves que je trouve les plus intéressants... Avec des critères plutôt objectifs quand même, hein. C'est ceux qui ont rendu leur compte rendu, ceux qui ont fait ci, enfin ceux qui n'ont pas été absents, etc. Parce que ça peut pas se faire à la tête du client, mais les élèves que je trouve les plus intéressants, eh bien, ont le droit, si j'ose dire, ont ce petit plaisir de partir dans une école du monde pour voir pendant une semaine comment ça marche. Là, par exemple, nous sommes allés à Pékin. Je reviens de Pékin. J'étais à Pékin il y a une semaine et avec 6 élèves. Et j'ai vu mes élèves, donc, tout d'un coup, faire de l'art traditionnel chinois. De l'initiation, presque rien, mais c'était formidable.
Enfin. De 7h du matin à minuit ?
Non, nous, on est considérés comme des gros paresseux, donc c'était juste de 10h à 11h. Non, c'était pas grand-chose. Mais bon.
Bonsoir. J'aimerais savoir la place que vous accordez à la scénographie dans vos mises en scène, et si vous les prenez en charge vous-même, ou si vous travaillez avec des scénographes.
Alors, j'ai deux types de réponses, si j'ose dire. Je vais essayer d'aller vite, mais j'ai deux façons de répondre. Une première, c'est une place énorme. J'ai souvent fait faire des gros décors, des décors très importants. En général, d'ailleurs, je ne sais pas quel décor faire, parce que dès que c'est un peu trop fictionnel, ça m'énerve. Si on dit, ça se passe par exemple dans une chambre de bonne, alors on va construire une chambre de bonne. Bon, et alors ? Ça existe déjà, les chambres de bonne, pourquoi on en fait une de plus ? Plutôt fausse d'ailleurs, sur un théâtre, ça va nous coûter des sous, je ne sais pas pourquoi on fait ça. Donc ça ne m'intéresse pas beaucoup, si c'est vraiment fictionnel, quoi. Si c'est réalistement fictionnel, ou même pas réalistement, mais voilà. Si au contraire ça dit quelque chose de vertigineux ou d'impossible, ça commence à m'intéresser. Par exemple, si le Grand Macabre dont on parlait tout à l'heure, mais bien d'autres spectacles, si on dit que c'est un théâtre qui regarde un autre théâtre. Et puis dans le premier théâtre, il y a un certain décor. Et puis dans l'autre, qui est plus petit, comme théâtre par exemple, il y a le même décor, mais en plus petit aussi. Et alors, un personnage sort du premier théâtre, le rideau s'ouvre, il sort, et il voit quoi, lui, dans le théâtre, hein, dans l'autre théâtre. Un double, on va appeler ça comme ça. Et alors maintenant, où il est, lui ? C'est quoi cet endroit qui est là, qui l'a croisé de tous les décors théâtres, enfin. Et donc, si ça commence à faire un lieu impossible, ce lieu, la scène, devient la différence entre le théâtre et le théâtre. Alors ça m'intéresse, un décor. Et du coup, c'est des décors très compliqués, très lourds, avec des moteurs, avec la construction, etc. Les ateliers ont travaillé beaucoup. Mais d'un autre côté, je déteste les décors. C'est-à-dire que je me dis que le mieux, c'est encore, comme on l'a souvent dit, je ne suis pas le premier à le dire, bien entendu, de Copeau à bien d'autres, enfin, ou Brooke, etc., c'est rien, c'est le vide, on va jouer là-dedans, y a juste la boîte noire, et on n'en parle plus. Et ça marche aussi bien, les deux, voilà.
Est-ce que vous pourriez nous parler du décor du roi Lear dans la cour d'honneur ? Parce qu'il était très particulier.
C'était une mise en abîme, oui, c'était le décor. Ben voilà un exemple de travail, d'atelier, un atelier à travailler, et pourtant c'était pour dire littéralement rien qu'on ne sache déjà. Sur la scène du théâtre de la cour d'honneur, enfin du plateau de la cour d'honneur, vous voyez comment est la cour d'honneur, hein, son architecture, c'était quoi ? Le palais des papes, la cour d'honneur. Donc on pourrait dire que ça ne sert à rien. Mais ça ne sert pas à rien. Parce que.
En très petite dimension.
En très petit. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer dans la cour d'honneur, on pouvait dire que la cour d'honneur était plus petite que les acteurs aussi. Puisque c'était exactement la cour d'honneur, mais en plus petit qu'eux. Autrement dit, les acteurs étaient entre la cour d'honneur et la cour d'honneur. Voilà, entre une vraie et une fausse, etc. Quand le décor dit des choses comme ça, ça me plaît. Pour moi, un décor, ça n'est pas un lieu objectif. Il faudrait que je commence par la scène. Bon, je termine ma phrase. Ce n'est pas un lieu objectif dans lequel un personnage entre. Par exemple, il y a un palais et le personnage entre dans le palais. Mais c'est un lieu subjectif et intérieur. Ce n'est pas le personnage qui entre dans le palais. C'est que nous avons la chance de voir le palais intérieur du personnage. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait le dire. Comme le costume, d'ailleurs. Le costume se porte sur la peau. Alors, on va dire, il a un costume du XVIIe siècle ou du XXe siècle, etc. Mais en fait, non. Ce costume devrait se porter sous la peau, en quelque sorte. Les acteurs devraient être nus avec un costume à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est leur âme, en quelque sorte, qui est sur leur peau. C'est autre chose. Voilà, et le costume, donc, doit servir à ça. Autrement dit, il est, là encore, subjectif. Enfin, si tant est que le mot reste vrai, reste juste. Et pour moi, donc, c'est ces mélanges-là qui font tout. Deux petites choses. Quand un acteur rencontre un autre acteur sur la scène, est-ce que la scène existait déjà ? Est-ce qu'elle préexistait ? Dans la réalité, donc, tous les mots entre guillemets, hein, et entre un acteur puis un autre acteur, et ils se causent, ou bien il n'y avait rien, ça n'existait pas, et ce qui a fondé la scène, c'est le rapport entre ces deux acteurs. Moi, je préfère penser ça. Et je préfère même penser que, un peu de manière borgésienne, si vous voulez, qu'il n'y a jamais deux personnes en même temps. Il y en a un qui rêve l'autre. Pas toujours le même. A rêve B, qui rêve A. Mais ça n'empêche pas que ce n'est pas deux personnes objectives qui se rencontrent. Et ça change tout, là encore. Ça crée du trou, du vertige et des possibilités. C'est-à-dire que peut-être que l'un existe moins que l'autre. Voilà. Ce qui est vrai pour les acteurs est vrai pour les costumes. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est l'anachronie ou l'anachronisme. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'imaginer que les choses se passent à une certaine époque. Je ne sais pas, moi, on va dire Andromaque. D'ailleurs, c'est quoi Andromaque ? Quelle époque ? Qui peut dire ? L'époque de la guerre de Troie, donc la Haute Antiquité. Et non. Parce que je pense qu'à l'époque de la guerre de Troie, personne ne parlait en alexandrin français. Donc c'est pas possible. Mais ça ne peut pas non plus passer au XVIIe siècle, parce que personne s'appelait Pyrrhus et parlait de la guerre de Troie, enfin, et étaient les enfants d'Achille ou ou d'Hector. Et donc, que faire? Eh bien, c'est les deux à la fois. Et même que ce soit le XVIIe siècle, heure de temps de l'écriture, ou que ce soit la guerre de Troie, temps de la fiction, on ne peut pas mettre des projecteurs, parce que là, les projecteurs, je vous assure qu'ils sont ni l'un ni l'autre. C'est plutôt le XXe siècle ou le XXIe. Eh bien, voilà déjà trois temps. Ces trois temps se tressent entre eux, et c'est ça le temps du théâtre. Et c'est toujours ça le temps du théâtre. Il n'y a jamais un seul temps au théâtre. Donc, les costumes doivent être contradictoires, anachroniques, ils doivent être sous la peau et subjectifs, et ils n'existent pas, et ils disent plutôt l'âme des gens, et les décors n'existent pas, sauf quand ils créent du vertige, etc. Donc, vous voyez, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas on crée un décor, ça se passe là. Il y a un personnage qui est habillé comme il doit être habillé, qui entre, et il rencontre quelqu'un d'autre. C'est plus compliqué.
Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, Daniel, de cette libre conversation.